Bonsoir tout le monde et bienvenue au 96e épisode de Divan Quest. Divan Quest 2023, à ne pas confondre avec NHL 23 ou FIFA 23. Ça se ressemble beaucoup. Là. Dans les deux cas, il y a vraiment extrêmement peu de différence avec les années précédentes. Mais en plus, on se donne même pas la peine d'updater la liste des joueurs.
On tue des loot box, nous autres?
Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous dire que je suis Mathieu Bonin, de retour dans vos tympans, en compagnie de Denis Reverb.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Hey, moi j'arrive avec les microtransactions.
Cool. Je suis content qu'on parte fort. Fait qu'on va se permettre un petit moment là, d'entrée de jeu pour vous souhaiter la re-bienvenue parce que j'imagine pas qu'il y a quelqu'un que ça va être son premier épisode. Parce que si c'est le cas, on est désolé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi? Dame, rapidement, là, on manque de temps.
Ah, déjà? OK. Ben, très très content en fait à date de me ressortir le micro. Surtout de sortir de l'occasion de faire des jokes avec un soundboard.
Ça qui manque dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, il manque de tout ça. Non, super content de revenir. Ça faisait longtemps que ça me manquait. Content qu'on décide de repartir ce projet-là. Honnêtement, je ne ferais pas ce que j'ai de nouveau depuis les dernières années là, parce que ça serait un peu long ou pas long en même temps. Là. Il me semble que j'ai rien de particulier qui ressort là, à la première vue. Content de revenir. Je voulais surtout, dans le fond, essayer de voir un peu là, comment est-ce que la nouvelle société puis la nouvelle, les nouvelles technologies là, allaient réagir au retour de Divan Quest. Fait que plutôt que faire un desswing cette fois-ci, je suis plutôt allé avec un segment entrevue. Moi, j'ai posé des questions, dans le fond, à la vedette technologique de l'heure, là, ChatGPT, par Bing, là, pour ceux qui se demanderaient par où j'ai passé.
Ben écoute, j'aimerais prendre une seconde dire que notre TTAI, notre Time to AI dans le podcast, a été de 2 minutes 5 secondes.
Donc, on est fiers de ça. ou oh, pas. Oui. C'est une bonne question. Donc, et ça a l'air que je suis plus capable de chercher quelque chose sur un soundboard. Fait que...
Rapidement.
Donc, quelques petits extraits audio de mon entrevue avec Bing. En fait, Bing n'a pas de version audio. Fait que j'ai posé des questions et j'ai ressacré ça dans un logiciel de text-to-speech. Là, juste m'en donner,
nice.
Question de faire du méta stupidity. Donc, j'ai commencé par une question simple. Hey Bing, salut. Connais-tu le podcast Divan Quest? Et on a ici ses réponses.
Bonjour, ceci est Bing. Je vais répondre à votre question en utilisant les résultats de la recherche web. Le podcast Divan Quest est un podcast techno et geek gaming animé par trois gars, Mathieu Bonin, Danny Gravel et Jean-François Laporte, qui parlent de jeux vidéo, de culture geek, d'histoire et d'humour.
Ouais, j'ai demandé après ça si c'était un bon podcast, parce que c'est correct une description. Là, yeah.
Je ne peux pas donner mon opinion personnelle sur le podcast, car je suis un moteur de recherche et non un critique.
Il sonne comme
je peux vous dire que le podcast a reçu des commentaires positifs de la part de certains auditeurs et qu'il a une note de 4.8 sur 5 sur Apple Podcast.
Et ça, c'est parce que les
si
gens ils t'écoutent.
Si vous aimez les podcasts techno et geek gaming avec de l'humour et de la variété, vous pourriez apprécier Divan Quest.
Pour ceux qui c'est leur premier épisode,
merci Bing.
J'ai demandé ensuite qu'est-ce qu'ils pensaient des animateurs. T'sais.
Oh boy.
Ouf. Je vais répondre à votre question en utilisant les résultats de la recherche web. Les animateurs du podcast Divan Quest sont Mathieu Bonin, Danny Gravel et Jean-François Laporte. Ce sont trois amis qui partagent une passion pour les jeux vidéo, la culture geek, l'histoire et l'humour.
Ils se décrivent probablement
des gars qui font des gags de mauvais goût et qui tentent de faire rire avec des revues de l'actualité geek, des rétrospectives historiques et des réflexions douteuses. Ils ont commencé le podcast en 2015 et ont depuis produit plus de 90 épisodes.
Rétrospective.
Je cherche vraiment genre le d'où pige exactement.
Toutes les infos, toutes les détails.
Il y a des gros bouts, ça vient du site web.
Oui, il y avait divanquest.com, il y avait genre Balade au Québec, puis bref, un paquet de places où qu'on était.
Il l'indiquait, c'est sources.
Oui, il donnait les sources.
Okay, c'est vraiment cool, ça.
Quand même bien.
Nice.
J'ai demandé quel genre de blague de mauvais goût, je me demandais qu'est-ce qui allait nous sortir de là. C'est un long extrait, mais qui vaut la peine.
Je vais répondre à votre question en utilisant les résultats de la recherche web.
Oui, merci.
Les blagues de mauvais goût sont des blagues qui peuvent être offensantes, grossières ou choquantes pour certaines personnes. Elle traite souvent de sujets sensibles comme le sexe, la religion, la mort, la maladie, le handicap, etc. Les animateurs du podcast Divan Quest font parfois ce genre de blagues pour provoquer le rire ou la surprise de leurs auditeurs. Par exemple, ils se moquent des femmes au volant 1, des personnes sourdes ou des personnes qui toussent pendant la pandémie. Ces blagues peuvent être drôles pour certains, mais elles peuvent aussi blesser ou inquiéter d'autres. Il faut donc être prudent et respectueux quand on fait ou on écoute des blagues de mauvais goût.
Oh my God!
Mais je vais commencer tout de suite avec notre première...
punition. Merci.
Punition à Bing ici, là, parce que non, je ne suis pas d'accord. C'est pas le genre de blague qu'on fait. Là. Surtout pas des blagues sur les gens qui toussent. Là. Ça serait vraiment inacceptable. Puis je lui ai dit. J'ai dit, Bing, les gars de Divan Quest ne font pas ce genre de blague.
Je m'excuse si je me suis trompé sur le style d'humour du podcast. Je me suis basé sur les résultats de la recherche web qui mentionnait des blagues de mauvais goût. Peut-être que ces blagues sont rares ou anciennes dans le podcast. Ou peut-être que les animateurs ont un autre sens de l'humour que celui que j'ai compris. Pouvez-vous me donner des exemples de blagues qu'ils font habituellement?
Le coq.
Mais qui a répondu?
Le coq est le surnom de Mathieu Bonin, l'un des animateurs...
What the fuck?
C'est aussi un animal qui symbolise la France et qui fait partie de nombreuses expressions françaises. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose à propos du coq?
j'ai dit que c'est beaucoup trop personnel. J'ai dit, non, là, c'est trop personnel, ça.
Je comprends. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ou vous poser des questions indiscrètes.
Ouais.
Je suis juste curieux de connaître votre avis sur le podcast Divan Quest et ses animateurs.
Bon.
Si vous préférez parler d'autre chose, je suis à votre écoute.
On suggère souvent aux gens de faire autre chose.
Il a reviré ça à l'envers. Moi, j'ai demandé son avis, puis à la fin, c'était lui qui demandait le mien. J'ai décidé qu'on n'était pas en danger pour notre podcast. L'intelligence artificielle ne nous volera pas notre job avant.
Bing ne va pas nous remplacer.
Calique.
Ça ne devrait pas être pour l'instant.
Ouais. Surtout s'il pense que notre contenu, c'est de faire des jokes de femmes au volant, puis de monde qui tousse pendant.
mais j'aime sa take sur le coq étant un personnage.
Oh, ouais. Maintenant, c'est ton surnom, paraît-il.
Calique. On s'en reparle.
Fait que toi, le coq.
Tabarnak. Comment je suis ça, tu sais? Non, écoute, pour moi, évidemment, comme Dan a dit, il n'y a aucune pertinence à essayer de revenir rapidement sur ce qui s'est passé dans les deux dernières et demi-années de nos vies. Mais je voulais juste prendre le temps quand même d'annoncer que oui, le podcast présente seulement en audio, mais on va revenir en vidéo prochainement. C'est juste une question que. Je set up mon workflow pour qu'on puisse faire ça. Donc, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, I guess, ça va revenir. Potentiellement en direct aussi, on verra. Mais bref, c'est tous des trucs qui s'en viennent. À part de ça, le jeu Lunark, que j'avais backé sur Kickstarter en février 2019, maintenant disponible depuis le 30 mars 2023, développé par Canary Games, publié par WayForward, quand même. Le jeu est développé en fait pratiquement en solo par Johan Vinet, qui est un ancien artiste chez Tribute Games, que vous connaissez probablement maintenant beaucoup à cause de Shredder's Revenge, mais on a déjà parlé de Flint Hook dans le passé et d'autres de leurs titres. On a parlé de Panzer Paladin, je pense, dans le dernier épisode avant la pause, je crois. Anyway, bref, c'est un cinématique platformer à la Flashback, Out of This World, pour les amateurs de rétro. Beaucoup de plaisir à date. Je pense pas que je vais en revenir pour faire une critique complète. Là. Je pense qu'il est assez discuté présentement comme jeu, mais très cool, puis très content d'avoir backé et du produit final. Très agréable pour l'instant. Et ensuite, on a une de nos amies de Cégep, Sandra Bro, qui avait elle aussi fait un Kickstarter pour une bande dessinée qui s'appelle Loud, ou Toutes les nuances de bruit, en français, qui est à propos de l'adoption de son chien et toutes les mésaventures qui entourent ça. Bref, ça devient disponible prochainement. Je devrais recevoir ma copie dédicacée prochainement. Donc ça, je risque de revenir avec mes impressions, mais ça devrait être disponible dans quelques librairies. Puis sinon, je vais faire le partage sur nos réseaux sociaux prochainement pour que vous puissiez voir ça.
C'est intéressant, ça.
Oui, j'ai bien hâte de lire ça. J'ai toujours adoré ce qu'elle fait visuellement. C'est incroyable. Fait que de voir un long forme, un graphic novel sur ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ça. C'est tout pour moi, Jeff?
Oui, mais c'est ça. Hein, il s'est passé dessus bien des affaires. Puis bien, on a eu le temps d'expérimenter pendant ces années ces mois, en fait, dans notre podcast. Là.
De quoi tu veux nous parler?
T'en vas où avec ça?
D'expérimenter. Mais en fait, j'ai expérimenté avec d'autres médiums, en fait. Fait que j'ai gamé un peu, c'est sûr. Mm-hmm. J'ai plusieurs mauvaises expériences avec... j'ai comme un groupe d'amis, puis on joue beaucoup à Call of Duty, Warzone, ces affaires-là, une fois de temps en temps. Puis j'ai toute une mésaventure qui est en cours en ce moment.
Okay.
Où j'ai un bug où je peux juste plus jouer au mode DMZ, l'espèce de shooter d'extraction. Le jeu refuse de me laisser me connecter, fait que je suis rendu avec des niveaux 2 chez Activision qui me demandent de faire les mêmes tests. Puis là, j'ai une autre personne qui m'appelle par un nom qui n'est pas le mien. Fait que là, ils doivent se mélanger dans leur ticket de leur bar. C'est super compliqué.
Cool.
Ça fait 3 semaines que je ne joue plus.
Alors, c'est quelqu'un d'Activision qui nous écoute.
Ben, ouais, c'est ça, je me suis dit, je vais profiter de notre tribune internationale.
That reach.
Pour les 17 personnes qui nous ont regardé sur leur feed.
Ben, je vais mettre de la pression. Je sais bien que c'est, si leur chiffre en bourse diminue, ils vont finir par régler mon problème.
Non, mais on le voit dans les stats sur Spotify qu'il y a des gens, pas seulement c'est du vrai. Québec, qui nous écoutent. Bon, qui est 5 secondes avant de se rendre compte qu'ils comprennent absolument rien, mais ça arrive.
Tous les mauvais clics, souvent.
Exact.
Mais je parlais d'avoir essayé d'autres médiums, en fait. Là, fait j'ai un peu mis de côté tout ce qui était les jeux vidéo, la nouveauté, pour juste aller dans la lecture. Tu sais, puis j'ai découvert un peu les mangas. Que, mais,
les mangas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
Mais ouais. En fait, ce que j'ai découvert, ce n'est pas les mangas. Juste mon fils a commencé à lire des mangas puis des choses comme des Dragon Ball puis des Naruto de ce monde.
Right.
Puis je me suis intéressé, il se fait-tu quelque chose d'un peu plus mature peut-être dans le manga? Puis je suis tombé sur en fait l'auteur Junji Ito qui écrit vraiment des mangas d'horreur qui sont super intéressants. Mm-hmm. Puis j'ai lu récemment Censor, qui sont plus récents. Une espèce d'histoire un peu à la Cthulhu là, avec des horreurs cosmiques et tout ça. Mm-hmm. C'est super intéressant. Et c'est sûr de se remettre dans ce mode-là, de lire de droite à gauche.
Exact.
Mais clairement, un auteur que je vais aller lire un petit peu ce qu'il faisait avant, parce que dans les critiques disent que ça diffère un peu de son habitude, c'est moins horreur, c'est un peu plus axé sur la réflexion, un peu les origines
de Dieu, tout ça.
Tantôt.
Okay,
mais il a écrit, il a comme réécrit de ses versions dans son style de Frankenstein, des choses comme ça, que je vais aller revisiter ça, c'est certain. Puis on s'en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler.
Tu m'éprêteras quand on aura fini.
On fera ça.
Excellent. Hey, pendant tout ce temps-là, les gens ont été privés de nouvelles. Chance que je suis là. Hein?
c'est comme si c'était rien passé pendant ces mois-là.
Bon! Ah, 2020. T'as-tu vraiment passé quelque chose, t'sais? Bon, j'ai pas vraiment suivi, non? Rien qui vient à l'esprit. Alors, le site web de patinage de vedette Jezebel rapportait que Quibi aurait apparemment détruit le mariage de Reese Witherspoon.
C'est notre faute, ça. Hein?
Ben, ceux qui écoutent Divan Quest depuis longtemps se rappelleront que nous avons parlé de Quibi lors de sa sortie en 2020. En fait, on en a parlé dans l'épisode 89 de la version pandémique de Divan Quest. Pour vous rafraîchir la mémoire... Quibi fut crissement brièvement une plateforme de vidéo premium optimisée pour l'écoute sur appareil mobile. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas vraiment grave, parce que celui qui avait apporté le sujet à discuter sur le podcast, un certain Jean-François Laporte, ne se rappelait pas non plus de ce que c'était quand on préparait le podcast.
C'était tellement marquant.
Ben voilà, fait que c'est bien peu dire. Hein?
Mais la version pandémique de Divan Quest, c'est-tu dans celle-là qu'on faisait des blagues de gens qui toussent? Je cherche encore. Là.
C'est le darkest timeline de Divan Quest. Mais anyway, on n'est pas là pour parler des écarts de mémoire de Jean-François, mais...
On parle de Reese Witherspoon.
En fait, on n'est pas vraiment là non plus pour parler de patinage de vedette. Fait que si j'en parle plus longtemps encore de Quibi, ce segment-là va avoir duré plus longtemps que la plateforme elle-même. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là. Hein? Ensuite, on est comme Dan nous a si bien présenté d'entrée de jeu, on est en 2023, donc on est légalement obligé de ramener au moins une nouvelle qui parle d'intelligence artificielle. Notez que j'utiliserai l'abréviation anglaise AI pour en parler, parce que si j'utilise IA à répétition, je risque de me faire poursuivre par Michel Barrette. Donc, ceci dit, l'application The Masters Golf Tournament, application officielle du tournoi de golf du même nom, hein, a annoncé au début du mois d'avril une mise à jour substantielle qui introduira you guessed it, hein, de l'intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, on a droit à un commentateur AI basé sur l'AI Watson de IBM qui accompagnera les flux vidéo d'application. Watson a été entraîné à comprendre la terminologie spécifique du golf. Donc, par exemple, on parle pas de fans, mais de patrons. On parle de greenside bunker plutôt que de sand traps et ainsi de suite. Bon, bien évidemment, je peux pas vous laisser juste comme ça, fait que je vais vous donner un extrait.
Hit from the pine straw on hole one. He took stroke 2, and the ball traveled 162 yards into the greenside bunker.
Bon, ben donc, comme vous avez pu constater, le résultat est quand même très authentique. L'AI est tellement avancé, réaliste et humain qu'il ne réussit même pas à faire semblant que c'est intéressant de regarder du golf. C'est tout, c'est ce que j'ai. Et récemment, le restaurant Bobcat Bunnies, situé à Détroit, a décidé de produire de la marchandise en utilisant ses pires reviews sur Yelp. Donc, il est actuellement possible de se procurer un magnifique chandail du Bobcat Bunnies. Non, c'est pas un segment sponsored ou rien, là. D'avoir un chandail du Bobcat Bunnies pour 25 US qui affiche au dos un score de 1 étoile sur 5 accompagné du slogan Overpriced and Gay. Premièrement,
c'est brillant. C'est
quel
brillant.
Move de course. I love it.
C'est mon nom, c'est Jeb.
Ah, t'es pas cher. T'es overpriced, excusez, pas cheap. Mais ça me donne le goût, hein, que je me suis dit qu'on pourrait financer le retour du podcast. On pourrait faire un peu la même chose. Donc, je vais pitcher aux gars ici et à vous tous à la maison quelques idées de slogans élogieux qu'on pourrait mettre sur le prochain chandail de Divan Quest. Fait qu'on vous invite à nous laisser en commentaire, là, quelque part. Là. Lequel est votre préféré? Alors, en se basant sur... je vais commencer avec les reviews sur iTunes. Donc, note 5 sur 5, slogan du n'importe quoi.
C'est assez véridique.
C'est représentatif.
On peut pas vraiment blâmer quelqu'un de ça. Ensuite, encore sur iTunes, 5 sur 5. Ils arrêtent pas de dire qu'ils sont ordinaires. Cool, hein?
I guess c'est commentaire.
Voilà. Dans les commentaires YouTube, là, donc évidemment, on n'aura pas de notes. Payez des clarités aux membres de l'équipe, s'il vous plaît. Écoute, c'est legit, là. autre commentaire YouTube, cette nouvelle saison a une ambiance sexe. Ouh. Avec 3X.
Ah, c'est, ça doit être à cause que...
C'est ça. Ben, je pense qu'on a toujours une ambiance sexe, mais... Et ben finalement, j'en proposais un dernier. GF, lors de l'épisode 51, qui nous a proposé agréablement déçu.
Yes!
Fait que, pour full disclosure, là, évidemment, j'ai dû charcuter des extraits hors contexte parce que les gens qui nous review sont tous beaucoup trop gentils. Là. C'était vraiment cool, d'ailleurs, de revisiter nos reviews. Puis merci à tout le monde de nous avoir écrit sur iTunes. C'est vraiment... Ça donne le goût de refaire des podcasts, d'aller visiter nos reviews sur iTunes, tu peux dire.
Hey, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Vampire Survivors.
J'ai jamais entendu parler.
C'est étonnant, pourtant, c'est partout. Tout le monde en parle, on dirait, sur... ou en parler. Ça s'est calmé un petit peu, mais on n'avait pas d'épisode pour en parler. Je me suis dit que j'allais faire un petit retour en arrière. Je vais commencer par vous expliquer le concept de Vampire Survivors. Fait qu'on est en l'an 2021, au cœur de l'Italie rurale. Il y avait une personne maléfique nommée le Visconte Draculo, dont les nombreuses magies maléfiques ont créé un monde
lui,
mauvais.
Les céréales, là,
non, c'est lui qui change le jeu au complet. Ça.
Mais le Visconte Draculo, il y avait des nombreuses magies maléfiques. Il a créé un monde mauvais rempli de famine et de souffrance. Et c'est maintenant aux membres de la famille Belpesse de mettre fin à son règne de terreur et de remettre de la bonne nourriture sur la table.
Céréales, on n'est pas trop loin.
le lore est complètement superflu à ce jeu-là. C'est zéro important. D'ailleurs, il n'est pas inclus dans le jeu. Ça, ça vient du site web. C'est le seul endroit qu'on trouve ça.
Je me demandais d'où ça venait parce que j'ai pas vu ça nulle part.
Non, moi non plus.
C'est totalement... c'est une cerise sur le sundae de ce jeu-là. Puis j'ai déjà passé beaucoup trop de temps à parler du concept pour qu'on ait besoin de comprendre le jeu.
C'est comme Quibi.
C'est comme Quibi. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Vampire Survivors comme Matt ici.
Non, j'ai joué. Là.
C'est un jeu qui ne devrait pas avoir le droit d'être aussi intéressant à jouer et aussi fun à jouer.
Aussi pas cher rendu là.
Il est littéralement gratuit si on va sur le site web. Il y a un démo quand même assez complet qui permet 4 personnages, puis une map, puis une version plus réduite du jeu, mais qu'on peut jouer directement sur le site web. Il est aussi littéralement gratuit sur les plateformes mobiles. C'est comme ça que je l'ai joué d'ailleurs là, sur iOS. Puis il coûte 5,99, je pense, 5,99
sur Steam. Irrégulièrement spécial. Là.
Je peux regarder sur Xbox, là, mais
une
il est disponible.
Une poignée de change.
Puis quand même un jeu développé par un développeur solo, qui c'est Luca Galante en 2021. C'est un jeu de survie... Tu sais, j'ai traduit la description qu'il en donnait. Un jeu de survie temporelle avec un gameplay minimaliste et des éléments de roguelite. Fait que j'aime bien le terme de survie temporelle. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent comme description d'un jeu. Là. Mm-hmm. Fait que... En gros, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de survivre à une nuit maudite, essayer d'obtenir le plus d'or possible pour le prochain survivant, parce qu'on va mourir, c'est certain, avant que la mort ça nous rattrape.
Après une demi-heure, je pense.
Ben, si tu te rends jusque-là, effectivement, ouais. Là, à 30, 31 minutes, là, de la mort rouge qui apparaît. Puis là, ça a l'air. Il y a une façon de. Il y a un achievement de survivre 31 minutes et 30 minutes.
Exact.
Il y a des façons de la tuer, mais il faut. Ça prend des joueurs expérimentés. Fait, en gros, on parle d'un jeu où il y a un seul contrôle, c'est juste déplacer notre personnage. Moi, je l'ai joué sur un téléphone, avec le touchscreen. On se déplace avec un joystick virtuel dans l'écran. Le personnage va attaquer seul à intervalles réguliers. Puis là, il y a des vagues après vagues d'ennemis. Il faut survivre. Puis les ennemis deviennent de plus en plus coriaces, plus le temps passe. Puis à sa mort, chaque ennemi a une chance de laisser tomber une gemme. Puis quand on ramasse ces gemmes-là, ça devient de l'expérience qui nous fait monter de niveau. Puis à chaque fois qu'on monte de niveau, mais le jeu va nous offrir un choix de 3 upgrades pour nos attaques. Là, on a des armes. Là, on peut avoir des couteaux de lancer, un coup de fouet, des haches, la foudre. Lancer des bibles.
As one does.
Une gousse d'ail aussi.
Ouais.
Il fait une espèce de rayon autour du personnage qui fait juste comme des.
Rien de mythique, là, c'est juste l'odeur.
C'est juste l'odeur, exactement. Et c'est un jeu qui brille par l'absence de vampires.
Oui, c'est vrai, exact.
Maintenant que t'entends.
Aucun vampire dans Vampire Survivors.
Même le. En tout cas, je tombe dans le détail du jeu, là, mais même celui que tu peux réveiller dans un cercueil n'est même pas un vampire. Là. Il n'y a absolument aucun vampire. Parce que dans le temps que j'ai joué, j'ai jamais vu de vampire.
Il n'y en a pas. Nice. On a entendu, il y a une expansion qui est déjà sortie. Il y en a une qui va sortir le 14 avril. Puis, en tout cas, toujours pas question de vampire.
Toujours aucun vampire.
C'est pas grave. Le jeu, quand même. A connu une popularité surprenante là, à un point tel que... En fait, il était lancé avec 3 ou 4 personnes qui jouaient probablement. C'était vraiment minimaliste. Puis jusqu'au jour où ça tombait sur Twitch, les streamers ont commencé à streamer le jeu. Puis là, ça a tellement explosé rapidement que le développeur a juste abandonné son day job puis s'est concentré à développer. Il est rendu qu'une petite équipe qui cherche à faire évoluer le jeu. Mais il garde toujours une mentalité de garder le jeu accessible, de garder... On le voit avec le DLC là, qui va sortir le 14 avril, où on parle comme 8 nouveaux personnages, 8 armes, une nouvelle carte complète, une trame sonore complète. Mais je pense qu'il y a une douzaine de nouvelles tunes qui vont sortir avec pour 2$. C'est
trop cher.
C'est cher.
Quand même. Le petit DLC.
Mais fait que
tu sais... Game Pass, le DLC, mettons, quand...
Je sais pas.
C'est pas une vraie question. S'il te plaît, continue.
Mais, tu sais, on parle quand même d'un jeu qui a une intention derrière ça. Le gars, il y avait une idée, il l'a codé, puis il veut maintenir un jeu accessible, puis il veut créer le gameplay est intéressant, puis il devient vraiment complexe. Merci. Il devient rapidement complexe, mais au niveau de la stratégie, au niveau de des défis qu'on va vouloir se donner, mais ça reste extrêmement facile à aborder comme jeu. Fait, on parle de, on se déplace sur un fond, c'est souvent une tuile unique qui va se répéter à l'infini. Là. Fait qu'il y a une tuile de forêt, peu importe dans quelle direction tu vas aller, c'est de la forêt. Dans les maps subséquentes, il y a des maps un peu comme la bibliothèque ou la librairie. Là, il y a comme la map devient une espèce de grand corridor horizontal. Tu peux te déplacer de haut en bas, mais dans peu de pixels. Là, c'est ce qui ajoute une difficulté de plus pour éviter les ennemis. On est dans un gros look rétro, pixelisé, minimaliste. C'est super cool parce que les ennemis ont quand même tous des looks qui sont faciles à identifier, puis ils ont tous des patterns puis des comportements qui sont différents.
Ouais, et qui étaient tous à l'origine des sprites ripped out complètement de Castlevania qui le remplacent tranquillement. Là.
Ben, il y a clairement un hommage à Castlevania.
C'est la version polie de dire hommage, mais oui.
Puis la musique fait un hommage à Castlevania. D'ailleurs, j'en ai un petit extrait. C'est pas dans le jeu, c'est sur le B-side de la soundtrack, celle-là. Okay. Mais je trouvais qu'elle faisait un bon rappel de tout ce qu'on retrouve sur la soundtrack. Mm-hmm. Tu sais, il va y avoir des soundtracks de piano, là, un petit peu ambiant. Puis
c'est le fun parce que tu l'entends vraiment bien quand tu joues le soundtrack. T'entends pas du tout le son des millions d'ennemis qui meurent à chaque seconde.
Ouais, je serais plus mal à des settings pour dire que je vais baisser les ennemis, je vais monter la musique.
Smart.
Fait que, tu sais, je me suis retrouvé en préparant l'enregistrement d'aujourd'hui de juste comme écouter en boucle le soundtrack. C'est devenu quand au travail, tu sais, j'écoute plein de musiques différentes. C'est comme ça a été cette semaine, mon soundtrack à job, c'était Vampire Survivors.
Low-Five Vampire Survivors.
C'est comme un seul compositeur là, qui compose toutes les tracks. Puis, il s'amuse clairement. Là. Ses influences sont claires, mais il pousse ça très loin. Il y a un gros côté Castlevania, rétro, mais dans beaucoup de tunes, on va avoir la guitare électrique, on va avoir des drums plus rock, des effets un peu plus planant électro aussi sur certaines. Fait que c'est super intéressant. Juste, en tant, juste la trame sonore vaut la gratuité du jeu.
Ou au pire, le 5$.
De rien. Ouais. Ou le 5$. Pourquoi c'est un jeu spécial? Pourquoi je pense que ça vaut la peine d'en parler? Parce que pour moi, l'intérêt, c'est la simplicité qui cache la stratégie et la complexité en arrière. Là. L'or qu'on va ramasser à chaque tentative, ça permet de déverrouiller différents bonus. On va avoir plus de points de vie, une meilleure vitesse, plus grande cadence de tir. Nos attaques vont se répéter plus rapidement. Fait que là, c'est le petit côté roguelite. Mais comme on le connaît aujourd'hui, là, c'est les roguelites. Le terme m'échappe, là, mais qui, où il y a une progression d'un round à l'autre. Là, fait que tu commences pas light. Toujours. Hein? Roguelite. Oui, c'est ça. Ouais. Roguelite.
Ben, puis aussi, je sais pas si je vais. je te vole du contenu qui s'en vient, mais il y a une trend. Je suis pas un gros fan de roguelite. Là, fait que je suis sûr que les auditeurs pourront dire ben oui, ça fait longtemps. Là. Mais tu sais, la tendance depuis quelques années dans les roguelites, c'est de cacher comme du lore puis du mystère à travers la progression. C'est que plus que tu avances, plus que tu uncover des trucs weird, puis que tu as l'impression justement comme d'avoir un espèce de quasiment de ARG, là, de augmented reality game où il y a des trucs qui font comme pas partie de la game qui viennent s'immiscer dedans.
Mais on le trouve un peu dans le sens où il y a pas de tutoriel, t'es pas pris par la main, là, puis la plupart, tout ce que tu vas avoir besoin en fait pour progresser dans le jeu est caché, mais il n'est pas dit. Tu finis par le trouver ou le découvrir, mais tu peux quand même creuser puis faire ta petite enquête. Parce que t'as une section où tu vois tous les éléments que t'as déverrouillés dans le jeu, où ils sont, que t'as fait ces achievements-là, t'as déverrouillé ces choses-là, t'as survécu tant de temps. Fait qu'à un moment donné, à travers cette liste-là, on se rend qu'il survive 5 minutes. Parfait, tu l'as fait. Là, qu'il survive 10 minutes. Là, survive 20 minutes. Là, survive 30 minutes. OK, t'as plus. Fait que là, je peux, j'ai un autre, là, tu donnes cet objectif-là d'atteindre les 30 minutes, puis là, ben, là, ça va déverrouiller. Tu vas rencontrer la mort pour la première fois, par exemple,
t'sais. Ben, je me rappelle aussi d'un moment où, en essayant de rien spoiler pour ceux qui n'auraient pas joué, quand tu finis un tableau, plutôt que d'avoir la mort, t'es transporté ailleurs. Puis tu dois survivre un certain segment. Il y a vraiment comme du. Il y a des surprises, genre, à tout moment, là, dans le jeu.
Oui, mais c'est tout comme ça que tu regardes le staying power là, du jeu. Fait que t'as envie d'y retourner, t'as envie de rejouer. Parce que justement, la première fois, j'ai survécu 10 minutes. C'est quand même dur au début, là.
Ah, vraiment.
Tu comprends, tu ramasses plein d'armes différentes. Tu finis par comprendre qu'il faut que je ramasse la même arme plusieurs fois pour qu'elle devienne de plus en plus forte. C'est plus facile de survivre longtemps. Là, tu fais des combos, tu trouves des affaires intéressantes. Puis à la minute, tu survis 20 minutes, puis ça te débarre un nouveau tableau. Mm-hmm. OK, mais une nouvelle map. Là, je peux aller jouer dedans. Là, oui, il est difficile. Non, j'ai peut-être besoin de débarrer plus de trucs. Là, tu retournes dans la première. Puis là, tu retournes dans la liste des achievements. Puis, oh, t'as un peu, là, je vais essayer de survivre. Je vais essayer de faire celui-là. Mais tu te donnes les objectifs personnels.
Ouais, le trickle down, the reward est vraiment comme hyper bien dosé. Là.
Puis, tu sais, il y a des armes qui sont nécessaires pour se rendre jusqu'aux 30 minutes ou faire les cartes les plus avancées qui ne drop pas à chaque fois quand tu montes de niveau de base. Il faut que tu aies certains équipements déjà montés à certains niveaux pour être capable de faire dropper les autres. Mais c'est pas dit nulle part, c'est quoi. Fait que maintenant, tu finis par découvrir, OK, si je prends les lauriers puis j'ai mon niveau 5, mais là, ça va faire tomber telle autre arme, puis là, celle-là est utile. Là.
Mais c'est cool parce que, tu sais, ça, c'est tracké, là. Fait que tu le vois, qu'est-ce que tu as besoin pour que l'objet upgradé réapparaisse. Là.
Ça ne l'était pas dans les early versions du jeu, là, l'espèce de le grimoire, je pense, ou whatever. Là. En tout cas, l'objet qui te permet de voir les upgrades, j'oublie le nom qu'il porte, n'existait pas avant. C'était juste comme du those who know, know.
Mais c'est, ça rend le jeu plus facile. Tu peux te donner tes sais. Je pense que sans ça, j'aurais peut-être joué un peu. Mais je fais OK, c'est un bon passe-temps. Tu es assis dans une salle d'attente, mais je l'aurais pas repris en dehors d'une salle d'attente. Mais là, d'avoir eu ce contexte-là, t'as plus, je vais essayer de faire ça. Là, les enfants sont couchés, je suis tout seul. Tu te trouves à jouer à ça au lieu d'aller jouer à...
Ça ne nous regarde pas, ça.
Au lieu d'aller jouer avec... c'est ça.
Au lieu d'aller pas jouer à Call of Duty parce que...
Parce que ça marche pas. Ouais, c'est ça. Il y a un bon mix, je trouve, d'habileté. Puis c'est quand même un certain niveau de skill que tu développes. De comment te déplacer, comment éviter les ennemis. Puis là, à force d'apprendre les patterns, tout ça. Fait que c'est une moitié chance, moitié stratégie. Ben, fait que ça fait un bon pick-up game.
Juste d'apprendre au début à ramasser ton expérience parce que c'est pas automatique. Là. L'ennemi l'échappe à terre, mais tu le ramasses pas. Fait que si tu repasses pas assez proche pour l'accrocher.
Mais t'apprends vite qu'il y a pas de reste là. Elle va pas s'en aller. Ouais, fait que tu peux revenir dans 5 minutes. Après avoir fait un super grand cercle à quatre, avoir kaité les ennemis.
Non, je trouve que le flow d'introduction, comment le jeu introduit les différentes mécaniques et t'apprends à jouer, il est extrêmement discret puis il est extrêmement efficace.
Oui.
Parce qu'au début, tes morts sont rapides. Tu survis quelques minutes, mais tu fais pas des demi-heures. Puis après ça, quand est-ce que tu fais pas la demi-heure au complet à chaque fois?
C'est ça, mais tu te fais des petits comprends, là, t'as un... moi je veux dire, c'est comme un plan de match en fait, right, qui s'installe avec tes préférences. Moi j'aime ça telle arme, je veux ça, je veux jouer de telle façon avec tel personnage. Puis, mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Non, c'est le jeu, je trouve, il est difficile, mais avec les upgrades, avec l'apprentissage que tu en fais à force de jouer, il reste accessible. Puis on arrive tout le temps, comme tu dis, à survivre un petit peu plus longtemps. Avec ça en fait, c'est mon go-to jeu mobile. Si j'ai besoin de passer un petit peu de temps, hein, Vampire Survivor, c'est facile à jouer. Je suis pas sûr que je m'assoirais devant un ordinateur pour mm-hmm. jouer à ça pendant toute une soirée. Là.
Moi, ça a été le jeu qui a eu le plus d'heures de jeu quand j'avais ma Steam Deck. Parce que tu pouvais jouer...
Mais ouais, c'est ça, c'est mobile.
Oh ouais, ben voilà. C'est pareil, moi aussi. J'ai pas joué sur un autre ordi que la Steam Deck. Là. Mm-hmm. Effectivement, que ça joue bien assis sur le divan. Ouais.
Mais à ton point, par contre, un peu ce qui m'a fait décrocher Overtime, rien contre le jeu, là, mais quand tes runs deviennent toujours d'une demi-heure... Tu joues une demi-heure plus le temps que tu gères tes upgrades d'achat. Ça devient, ah, oh, je vais aller jouer un peu, c'est 45 minutes. Une run te prend 45 minutes. J'ai dit, OK, au début, c'était 5 minutes, 10 minutes. Je dis, oh, c'est systématiquement 45 ouais. minutes. J'ai dit, OK, ouais. C'est un peu moins un jeu de métro, là.
Mais c'est là que moi, j'explore une nouvelle carte, les choses que où je vais aller, mm-hmm. un nouveau personnage, une nouvelle, tu sais. Right. C'est sûr, si je sais que j'ai juste 10 minutes devant moi, je vais pas prendre celui que je connais bien puis faire partie avec la stratégie, je sais qui fonctionne. T'as mm-hmm. d'essayer bon des affaires.
Bon point.
Mais tu sais, étonnamment, pas mal tout ce qu'il y a à dire sur Vampire Survivor. C'est un jeu super le fun, super cool que je recommande, mais il n'y a pas, tu sais, mm-hmm. on peut pas s'étirer pendant des heures sur... On peut s'étirer une demi-heure maximum. Après une demi-heure, on meurt, la mort apparaît.
Non, mais...
Justement,
aussi,
je pense qu'elle est à la porte. Ben,
avec la pizza.
Avec la pizza.
Hey, dude. On peut t'en manger avant, mettons. Que... Non, mais... puis aussi, tu sais, je pense pas que c'est le premier jeu de ce genre-là, mais c'est le premier jeu qui a capturé l'attention du public.
Puis qui a comme déjà généré une panoplie de clones, là.
Ben oui, il y en a... Ça a explosé, là. C'est assez facile, quote-unquote, à développer, là. Mais... oh, excusez, c'est assez facile à développer. J'avais oublié.
Un classique.
Ouais. Mais exact, tu sais, c'est un peu comme Doom. T'sais, il a fondé une légion d'imitateurs.
Ce qui ou est quand Flappy même... Bird.
Doom, Flappy Bird, écoute.
Même combat.
C'est visuel, là, mais je mets mes mains à la même hauteur devant moi. Là, même niveau. Ouais.
Mais oui, fait, plein de clones. Si vous ne voulez pas jouer à Vampire Survivor, il y en a plein d'autres qui ont de l'air intéressant, qui ont construit sur la... sur la recette de, j'ai oublié son nom, Luca Galante. Mais je le recommande définitivement. Puis si j'avais donné une note, je pense que j'aurais la note de zéro vampire.
je m'attendais à quelque chose en pâte de divan, mettons. Mais...
Moi, j'ai dû le mettre. Vampire, il n'a pas.
Parce qu'il y a quatre pattes de divan, parce qu'il n'a pas pu s'en servir pour staker le vampire, il n'y avait pas de vampire.
Il n'y avait pas.
Et... Écoute, je peux pas être d'accord.
Pose pas de question. Zéro vampire.
Vampire. Il n'a pas.
Aujourd'hui, dans l'univers des Divan Quest.
T'as-tu des vampires?
Non.
J'aime bien que t'as baissé les yeux pour vérifier tes notes.
Juste au cas. Non, on confirme que... Non.
Oui.
Aujourd'hui, 12 avril... Donc, je commençais en 1864. C'était la bataille de Fort Pillow, qui, contrairement à son nom, là, était fucking pas douce. Non, ça a été plutôt considéré comme un vrai massacre là, qui a permis d'accroître le soutien pour le Nord là, dans la guerre... la guerre civile, là, c'était... Je les mélange des fois. Bref.
La guerre de 1864.
Là.
Merci.
Nord contre le Sud. Là.
Oui.
J'avance en 1917.
Yes.
Prise de Vimy pendant la Première Guerre mondiale par...
Encore une mission pour ces courageux Canadiens.
Nice. Canadiens.
Bon, OK. Pour ceux qui sont fans d'RBO, c'était dans la Deuxième Guerre, là, mais c'est pas grave. J'avance en 1961. Yuri Gagarin devient le premier humain dans l'espace en complétant un vol orbital de 108 minutes dans le Vostok 1. Mm-hmm. J'avance 20 ans plus tard, 1981, même date. John Young et Robert Crippen commandent le premier lancement d'une navette spatiale sur la mission STS-1. Pendant la mission, ils utilisent une calculatrice scientifique HP-41 pour calculer l'angle exact d'entrée en atmosphère. Le genre de calculatrice là, qu'on utilise pour faire les maths là, au secondaire. Là. Mm-hmm. Ouais. Une fois l'entrée faite, paraît que le commandant Young aurait écrit le nombre 5 318 008 en riant sur sa calculatrice. Pour ceux qui n'avaient pas fait le lien.
Bibs.
God.
Oui, 1999.
Oui.
Sorti sur PC du jeu Ancient Conquest, Quest for the Golden Fleece, si, je pense, ou j'ai peut-être mal lu. Donc, on raconte l'histoire d'être découverte des feuilles antistatiques pour la prêcheuse qui a changé l'histoire. Ah non, OK. Ce que j'ai mal lu, c'est Fleece, non pas Fleece, là, comme une toison dorée.
Ça arrive à tout le monde.
Mais ça arrive. On est. Mm. On aurait pu faire le drop de Disappointed, mais sur l'autre page, je ne l'ai pas trouvé.
On est tous humains et faillibles.
Voilà. Fleece, Fleece, même combat. J'avance en 2011, sorti sur sorti sur Xbox 360 du jeu Men vs. Wild with Bear Grylls. La légende veut que le jeu venait avec une bouteille spécialement adaptée. Là,
But now, I'm getting low on water. And the only thing I can do is to drink my own pee.
Expérience complète.
2016, sorti sur PS3 là, d'un song pack pour Rocksmith de 2014. Mais en fait, c'est juste une excuse pour moi pour faire ça.
Nice.
2019, sorti du trailer de Star Wars épisode 9 de Rise of Skywalker.
J'aime bien qu'à Star qu'on a ça sur le soundboard. C'est parfait.
C'est pas pour rien que je l'ai clippé juste demain. Donc oui, sorti du trailer de Star Wars épisode 9 de Rise of Skywalker, puis là, on partira pas un débat, là. On fait de l'histoire, c'est tout.
Voilà, c'est dit.
Happy birthday to you.
Donc, les anniversaires. Naissance en 1921 de l'homme politique et avocat et juge Robert Clich, principalement connu, oui, pour ses échecs à se faire élire pour le NPD, mais aussi là, pour sa présidence de la commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction en 1974.
Mm-hmm. On va dire une affaire, le juge Clich, là, on l'a bien loin de ce que tu peux penser.
Comme c'est son anniversaire, on va imaginer qu'il parlait de son cœur.
Oh, c'est sweet, pareil. Mm.
1938, naissance de l'acteur québécois Donald Pilon, surtout connu là, pour cette merveilleuse publicité de 1992.
La dernière fois que j'ai parlé de la toute nouvelle pizza McDonald's, ils m'ont dit que j'avais pas assez insisté sur le fait qu'elle pète en moins de 5 minutes.
Important de se rappeler de la pizza McDonald's à intervalles réguliers.
À intervalles de 5 minutes, j'imagine.
C'est un peu plus long intervalle que ça. Parce que, sinon, dans 5 minutes, je repars le drop. Naissance en 1947, oui, de l'auteur états-unien Thomas Leo Clancy Jr. Là, je me risquais pas à faire une joke sur lui de peur qu'un commando international débarque dans la cuisine chez Matt pour me faire rapidement taire de manière définitive. On voudrait pas tâcher son nouveau plancher.
J'allais dire, les fenêtres sont neuves. Là, on se garde une petite...
Il y a déjà la mort qui attend à porte.
Avec une pizza de McDo.
la mort qui fait du DoorDash.
Il faut payer facture. Coûte cher le nettoyage à sec de grand robe.
T'as dû faire de l'overtime les dernières années. Bon, du coup, hein, c'est une joke de mauvais goût, ça. T'aurais demandé à Bing.
Oh, ouais, peut-être.
Merci.
Non, t'as pas besoin de projet. 1959, naissance du prolifique acteur et doubleur Alain Zouvi qui souffre d'un mal incurable.
Il y a un ouistiti dans mon pot de colle. Il y a une banane dans mon oreille.
On lui souhaite bonne chance.
Oui.
Pour ceux qui n'ont pas.
Référent?
Oui, la référence, c'est que tout le monde, il demande souvent sur Internet de dropper des quotes d'histoires de jouets, mais il ne peut pas. Il n'a comme pas le droit légalement de dire des répliques d'histoires de jouets avec la voix de Woody, là, que c'est lui qui double.
Mais pour le Wistiti,
genre, il a légalement pas le droit, genre, dans son quotidien. Là. S'il est à l'entour de la table, pendant dîner, puis ouais, il dit...
Il y a un commando international d'avocats de chaque dîner qui arrive avec
qui
Tom Clancy.
Son plancher.
Je termine ça en 1968 avec la naissance du hockeyeur canadien Adam Graves, que je connais principalement parce qu'il jouait pour les Rangers dans NHL 95. Là. Donc, on a ici un extrait. Ah, je me suis trompé.
C'est une beaucoup meilleure joke.
Ça va rester de même. Donc, aujourd'hui, 12 avril, journée, il y a plusieurs journées qui étaient soulignées.
Ah, cette... Chris, c'est vrai, il y a ça à la fin de ce segment-là. Oui. Ah, tabarnak! C'est pour ça qu'on a arrêté.
j'ai hésité entre la journée nationale de la réglisse aux États-Unis, puis ce que j'ai finalement choisi, non, c'est le premier jour des céréalia. C'est bon, on fait un callback sur...
sur le docteur Country.
Draculo. qui est une fête religieuse de la Rome antique là, qui débutait par le sacrifice d'une truie, suivie par la suite de jeux. Donc, j'espère que tous ont affûté leur couteau à truie pour cette journée de Premier jour des céréales.
Partagez vos photos de vos meilleurs sacrifices de truies sur nos réseaux sociaux.
Je termine ça avec le dicton.
C'est ça que j'avais peur, en fait.
Donc, c'est une demande générale là, de personnes.
Mais ouais, ouais.
À Saint-Jules, les Sansonnets tiennent ménage dans les clochers.
Tabarnak.
Blade of Steel.
Hey, c'était mon tour. Alors, moi, cette semaine, j'ai décidé d'y aller un peu plus loin que le jeu électronique, mais je vais quand même vous faciliter la transition. Là, il y a une petite partie de jeu électronique dans la question. Je voulais vous parler du jeu de société, en fait, qui est tout jeu confondu, qui a occupé le plus d'heures de ma vie depuis qu'on a fait le podcast. Le jeu de société Gloomhaven.
Connais pas.
Non, hein, j'ai entendu parler. Dans les cercles de jeux de société, sa réputation n'est plus à faire, mais si vous n'êtes pas un fan, ben j'aimerais quand même vous présenter ce petit bijou qui a, un peu à la manière de Vampire Survivor, créé tout un mouvement dans le monde des jeux de société. Il s'agit en fait d'un Tactical Dungeon Crawler coopératif designé par Isaac Childress. On ne s'arrêtera pas à sa description, j'y reviens plus tard. Publié par Cephalofair Game, qui est la compagnie fondée par M. Childress suite à sa campagne Kickstarter. Il existe une version digitale sur PC seulement, présentement, mais qui va être disponible sur console. Ça fait un bout que c'est annoncé, on n'a pas encore de détails exacts, ça devrait venir. La version digitale est développée par Flaming Fowl Studio et publiée par Asmodee Digital. En gros, le backstory, un peu l'origine du jeu Gloomhaven, c'était une campagne Kickstarter en 2015 qui a finalement abouti avec la sortie du jeu tard en 2017. C'était quand même un gros swing de la part de M. Childress, que je suis sûr que je ne dis pas son nom comme il faut, mais c'était quand même... Le gars avait publié un jeu avant, mais c'était pas un designer connu qui se lance dans une campagne pour un jeu massif. Là. C'était vraiment la promesse de quelque chose d'extrêmement ambitieux, d'avoir un jeu de société, mais qui avait des éléments d'un RPG open world, qui pouvait supporter d'avoir plusieurs groupes de joueurs en simultané qui jouent à ton jeu, puis que les actions de un vont impacter les autres. Bon, en réalité, c'est un peu moins détaillé que ce qui était promis, mais la promesse était là. La campagne Kickstarter détaillait le jeu à $79 US, ce qui est quand même un deal considérant que quand il a fini par sortir, il est en 2018, là, sur les tablettes au retail, c'était $150 canadiens. Mais en gros, comme je disais tantôt, c'est un Tactical Dungeon Crawler qui est 100% coopératif avec honnêtement un enrobage de RPG. La facette RPG du jeu est vraiment là pour supporter l'expérience de jeu. Donc quand on parle d'un Tactical Dungeon Crawler, là, évidemment, c'est un jeu qui... focus sur des scénarios spécifiques et que l'expérience est plus sur le tour par tour plutôt que sur comment on va accomplir le scénario. Les objectifs sont toujours assez clairs, mais c'est dans le moment-to-moment gameplay qu'on dirait en anglais, mais c'est à chaque moment comment on va utiliser nos ressources pour survivre puis faire avancer l'objectif que l'expérience se trouve. En termes d'univers, là, c'est du médiéval fantastique. Rien de révolutionnaire, mais qui a sa propre saveur, il y a ses propres races, mais on est très, très au goût du jour. Là. C'est du médiéval fantastique avec une petite touche de grimdark pour les fans là, de Souls, de ce monde et autres, là, qui se glissent un peu dans toutes les facettes du fantastique.
Puis il y a ses propres races.
Là, c'est, en fait, les humains sont là, mais ont vraiment une très, très petite partie. Mais t'as les Inox. Ils ont vraiment comme tout leur propre univers. Là. C'est pas... Il n'y a rien qui est hyper original, mais ça a sa propre couleur.
Mais c'est-tu comme... C'est des elfes, mais avec un autre nom? C'est des orques avec un autre nom?
C'est un peu plus fantasy que ça en général. C'est quand même intéressant. J'ai de la misère à trouver des bons exemples. Les espèces de gnomes... j'ai oublié le nom qu'ils portent. C'est comme... Tu sais, les gnomes, mais pas des gnomes. Mais chacune des races, bref, leur permet comme un peu de leur donner leur personnalité puis leur rôle dans le monde parce que c'est beaucoup des archétypes, right? Mettons, tous les Inox ont la réputation d'être des brutes, nanana. Puis là, quand t'as un personnage qui est différent, ça te permet de tapin là-dedans. Donc, ça te permet d'éviter les préconceptions qui viennent avec les clichés d'elfes et autres, mettons. Mais il n'y a absolument rien là, de super révolutionnaire là-dedans. Et oui, il n'y aurait pas l'espace pour l'explorer.
De toute façon, ça ne change pas tant que ça, rien dans le gameplay. C'est pas comme un Donjon Dragon où est-ce que ta race a un impact.
Exact.
Sur... La race va avec la classe de personnage que tu choisis. Là, ça vient avec tes packages. Là.
Mm-hmm. Exact. Donc, c'est ça. Donc, rien pour stimuler l'imagination d'auteur à explorer cet univers-là, malgré que je sais qu'il y a une BD ou deux qui existe, là, peut-être un roman aussi. Là. pas vraiment important. Mais le jeu se joue sur des cartes construites à partir de différentes tuiles de carton qui sont sur des grilles hexagonales. Donc, pour ceux qui sont familiers avec ce genre de mouvement-là. Les scénarios représentent toujours comme une encounter, là, un affrontement. C'est jamais genre un épique. Ça va être dans des scénarios assez compacts qui vont souvent, oui, s'enchaîner pour compter plus une trame narrative, mais les games sont timés à environ 30 minutes par joueur. Bon. Ce qui fait qu'une game, au maximum, va se faire sur 2 heures, parce qu'on parle de 4 joueurs maximum. Les conditions de victoire, comme je disais toujours, sont au départ, sont toujours très claires, parce que c'est pas là que le défi se situe du tout. On contrôle directement un ou plusieurs personnages, puis comme je disais tantôt, ben le focus est vraiment sur le « à chaque moment ». C'est ce qui fait que c'est le niveau de détail qu'ils ont apporté au déroulement d'un tour qui fait que c'est un jeu vraiment spécial. Puis pour ce qui est du côté RPG, là, on a une campagne, oui, qui est là, qui va nous exposer à la majeure partie de 95 scénarios au maximum. Parce qu'on a des quêtes qui sont optionnelles, qu'on va déverrouiller. Il y a carrément des lignes d'intrigue qui vont se fermer parce qu'on va faire certains choix. Il y a des événements à la dont vous êtes les héros que vous allez rencontrer quand vous allez en ville ou quand vous voyagez. Ce sont tout simplement des cartes avec un petit bout de texte que vous faites un choix, mais qui donnent beaucoup de couleurs à l'univers. Puis on a évidemment un système de progression avec des niveaux comme... Merci. Comme ce qui est attendu. T'étais prête, hein? Bref, on s'en sort pas dans un RPG, mais... Ça donne un bon sentiment de progression, puis c'est bien exécuté, ça a un impact important sur la façon qu'on joue les personnages. Fait que comme je disais il y a quelques instants, un jeu comme ça, forcément, le noyau de ce jeu-là, ça va être comment ça se passe au tour par tour. Fait que je vous explique les grandes lignes, je me noierai pas dans les détails. Le but ici, c'est pas de faire un breakdown, de faire un fucking vidéo de channel YouTube de 25 minutes qui te présente un jeu... Puis en bout de ligne, t'es comme, oui, mais tu peux juste me dire si c'est bon, Simonac, genre, je veux pas toutes les règles. Donc, on va garder ça assez compact. Chaque personnage va être activé par des cartes. Chaque personnage a environ un deck d'une dizaine de cartes, ça varie d'un à l'autre. Les cartes contiennent toutes 2 sections. T'as une section du haut, qui est typiquement attaque, puis t'as une section du bas, typiquement mouvement. Et on a une action de base qui est disponible sur toutes les cartes, un attaque de 2, un mouvement de 2. Donc, on doit choisir 2 cartes à tous les tours. Ces cartes-là vont déterminer l'ordre d'initiative, quand est-ce qu'on joue dans le tour, puis les options qu'on va avoir pour improviser pendant le tour. Parce qu'on choisit ces 2 cartes-là, mais on n'est pas barré à dire « OK, j'ai pris cette carte-là pour jouer le haut de celle-là. Quand le tour commence, je peux choisir ce que je veux sur ces cartes-là. » Donc, ouais. On a une capacité d'improvisation.
Belle façon de faire un genre « Ah, oh, fuck, ce que je voulais faire marche juste plus parce qu'il y a des choses qui ont bougé. » Puis les actions de base te permettent tout le temps au moins de faire quelque chose pareil. T'es pas juste comme « Ben, je peux rien faire. »
Exact, c'est ça. Je suis comme « Bon, ben, j'ai juste des attaques à distance puis je pogne dans un coin, ben, je peux rien faire ou je peux, bon, rien faire d'efficace. Les joueurs ont le droit de communiquer comme ils veulent sur leur stratégie. La seule limitation, c'est qu'on n'a pas le droit d'exposer les chiffres d'initiative. Faut rester assez vague. Mais on peut quand même dire si on joue tôt ou on joue tard, peu importe. Puis en fait, quand tout le monde a choisi, on révèle les valeurs, donc on voit quelle initiative, donc l'ordre pour les joueurs, et on révèle aussi les cartes d'AI des ennemis. Donc là, on a aussi à quel moment est-ce que les ennemis vont agir, puis qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Parce que, en fait, ça va être exemple, bouger de tant de cases, attaquer de tant de dégâts, et ou à telle distance, attaquer sans bouger, se guérir de temps, etc. Toujours une séquence qui est rigide sur les cartes des ennemis. Puis les ennemis du même type s'activent tous en même temps. Donc, s'il y a juste 2 types d'ennemis dans la rencontre, ben on tourne 2 cartes. Ça va nous donner l'information qu'on a besoin. Puis ensuite, ben on va activer chaque personnage puis chaque ennemi jusqu'à la fin du tour. Rinse, repeat, jusqu'à la fin du scénario où que tout le monde soit mort. Bref. Puis, à chaque fois qu'on utilise les 2 cartes qu'on a en main, ben on les discard. Puis quand on n'a plus de cartes qu'on peut jouer, on doit prendre un repos. Mais au moment du repos, bon, il y a plusieurs façons de le faire, mais dans le détail, ça fait qu'on va scraper une carte pour le scénario au complet, qui ne sera plus disponible quand on se repose. Donc, non seulement on a une diminution temporaire d'options quand on joue, ce qui veut dire à chaque tour, mettons j'aurais une attaque qui est très forte, une attaque de 5, ben si je l'ai discardée, elle n'est pas disponible au tour suivant, elle ne sera pas disponible avant mon prochain repos. Puis en plus, à un moment donné, ça se peut que j'aie à scraper cette carte-là parce que j'ai pris un repos, donc je scrape de façon permanente. Donc,
tu peux pas t'asseoir sur une carte et je vais la garder pour tantôt.
Du tout. Non seulement entre 2 repos, tu vas la jouer. Puis là, si tu veux la récupérer, il faut que tu fasses un repos, donc tu vas scraper une carte. Donc, ton nombre de tours total disponible va diminuer. Donc, il y a un sentiment d'urgence qui vient de ça. Puis tes options stratégiques aussi, tes options tactiques, dis-je, diminuent avec ton nombre de cartes à force que le jeu avance. Bref, tes personnages s'épuisent.
En plus de certaines cartes, je ne sais pas si tu y allais là, mais...
Non, mais vas-y.
En plus de certaines cartes qui sont plus fortes que quand tu les utilises, se brûlent automatiquement. T'sais, c'est comme ça, c'est un one-shot. Là. Tu t'en sers, tu peux plus utiliser...
Fait que t'as mis de côté. Là.
Exact. Il y a des cartes que quand tu la joues, est immédiatement scrap. Donc, tu fais le calcul dans ta tête de dire, si je la joue très tôt dans le jeu, je viens de perdre déjà une carte, ça boule de neige cet effet-là, parce que c'est une carte de moins que tu as achetée pour toutes les prochaines fois que tu vas te reposer. Mm-hmm. Donc, de perdre une carte-là, en réalité, peut te faire perdre 5 tours avant d'être épuisé. Ouais. Bref, on rentre dans le minutie que je veux pas qu'on aille, mais c'est le genre de décision tactique que tu dois prendre, de dire, j'ai de quoi de vraiment puissant, est-ce que je l'utilise au risque de...
Mais ça l'image bien ce que tu disais, là, tu sais, que c'est le tour par tour est important.
Mm-hmm. Avec une vision quand même.
Exact, c'est ça. C'est une décision immédiate, mais il faut que tu gardes l'exécution du scénario. Tu sais, c'est pas une décision. I guess que c'est une décision stratégique à ce niveau-là de jouer une carte comme ça parce que ça impacte ta capacité à finir le scénario au complet.
Puis est-ce que les scénarios vont provoquer ces situations-là, tu sais, de. Obligé à prendre des décisions difficiles. Quand je prends pour survivre, je suis obligé de sortir ma grosse carte, mais je ne l'aurai pas tantôt.
D'emblée, parce que le jeu est extrêmement difficile. Donc, c'est le raccourci pour y arriver, c'est que le jeu est difficile. Donc, il te demande d'être très, très, très au courant de c'est quoi tes options. Puis, tu ne peux pas te reposer sur ce qu'on appelle une first order optimal strategy, là, mm-hmm. une full strategy, où tu as une stratégie de premier ordre optimale. C'est-à-dire, je fais ça, ça marche, fait que je vais faire ça tout le temps.
Ouais, comme il y a souvent dans les jeux coopératifs. Là.
Exactement. Bah, puis dans les jeux en général, tu peux pas juste t'appuyer là-dessus parce que tu n'auras pas les outils nécessaires pour survivre. Donc, ça évite. C'est vraiment un détail que je trouve qui permet au jeu d'éviter de stagner avec les jeux répétés. Tu dois rester au fait de tes différentes options. Mais bref, ça, c'est le survol de comment le jeu se joue. Maintenant, je vais vous parler pourquoi je pense que c'est un excellent jeu. Pourquoi est-ce que c'est un bon jeu? Chaque tour devient forcément un puzzle pour lequel il n'y a aucune solution parfaite. Il y a une solution idéale, mais il n'y a pas de solution parfaite. On se fait un plan au début du tour, on en parle à l'entour de la table, je vais faire ci, je vais aller foncer là, je vais aller prendre l'attention de l'ennemi, comme ça tu vas pouvoir faire tel pouvoir ou me booster de telle façon, etc. On amorce le tour. Mm-hmm. Après ça, on doit s'ajuster selon nos options parce que là, immédiatement, on a une information complète de ce qui va se passer. C'est vraiment une... Ça fait penser, en fait, à les Into the Breach dans les jeux vidéo ou Slay the Spire, qui ouais. fait la même chose, où quand ça commence, je peux simuler tout ce qui va se passer dans le tour. Parce que, exemple, on est... Tu sais, c'est pas un jeu vidéo, right? Fait que l'intelligence artificielle de l'ennemi, c'est un set de règles que les joueurs comprennent. Exemple, un ennemi va toujours attaquer l'ennemi, le joueur le plus proche, et si... Il y en a deux à même distance. Celui qui a la plus basse initiative. Donc, tu peux volontairement aller te mettre exactement à la distance d'un ennemi pour attirer, pogner l'aggro, pour attirer son attaque, pour éviter qu'un autre joueur la prenne. Tu le sais, tu le vois, c'est connu. C'est pas un surprise, puzzle. Donc, avec toute cette information-là en main, ça te permet de surmonter des odds qui sont pas en ta faveur d'aucune façon. Du moment que les cartes justement sont révélées, on en sait tout. La seule partie de hasard qu'il y a vraiment dans le jeu, au-delà de évidemment l'ordre des cartes des ennemis qui vont sortir, là, mais quand un tour est amorcé, le seul hasard qui reste, c'est le deck de modificateurs. Donc on a une pile de cartes parce qu'il n'y a aucun dé dans le jeu. J'aurais quasiment dû ouvrir avec ça. C'est une de mes choses préférées de ce jeu-là. Aucun dé. Le seul hasard véritable. Oui, excuse.
Puis pas juste parce que ça se joue pas bien en enregistrant un podcast. Là.
Non. Mais c'est que le deck de modificateurs, dans le fond, il est pour tous les joueurs, il est pareil au départ. Puis on peut le modifier à travers de nos niveaux puis de notre progression pour retirer des effets négatifs, rajouter des effets positifs à notre goût. Donc, c'est pas juste un remplacement pour un dé. Dans ce deck-là, il existe juste un échec critique et un succès spectaculaire, I guess. Un critical hit. Dans le fond, on a un x2, puis on a un annulation de l'attaque. Mais tout le reste des cartes vont être entre -2 et +2. Donc, on peut prévoir nos coups en sachant c'est quoi les pires choses qui peuvent arriver parce que c'est extrêmement limité. Mm-hmm. Donc, c'est le seul hasard avec lequel on doit gérer. Puis, il existe quand même des mécaniques pour le mitiger.
Mais je trouve ça super le fun parce que ça rejoint, puis on va en parler un petit peu tantôt, là, de, mm-hmm. T'sais, j'ai passé beaucoup de temps dans les dernières années et beaucoup d'argent là, à m'intéresser à tout le old school revival, l'univers des jeux de rôle. Pas tant old school, là, mais t'sais, qui s'inspire des premières éditions de Donjons & Dragons et tout ça. Puis mm-hmm. C'est une philosophie qui revient dans presque tous ces jeux-là, de jamais surprendre les joueurs. T'sais, s'il y a un piège dans un donjon, par exemple, tu veux pas lancer un dé, puis « Ah, ben t'es tombé dans un piège, puis t'es mort. » Ah, tu reçois... tout est télégraphié, tout est dit d'avance. Puis, parce que l'objectif du jeu, c'est pas de surprendre tes joueurs. L'objectif du jeu, c'est je vais vous mettre toutes les informations que vous avez besoin sur la table, puis prenez la meilleure décision possible en fonction de ce que vous avez. Puis, ce qui est le fun autour de la table, c'est quand notre stratégie, elle marche.
Ou qu'elle marche pas.
mais elle marche pas en ayant connaissance de toutes les variables que tu avais. Parce que c'est un jet de dés qui a fait la différence, par exemple.
Exact. Mais Gloomhaven le fait bien. Puis, ben, tu sais, il reste en même un élément de hasard parce que tu peux flipper à la carte que tu as besoin. Comme tu veux le tuer le dernier ennemi, puis finir le scénario, tu flippes celle que tu fais pas de dégâts, puis tu perds à cause de ça. Ça arrive, là. Mm-hmm. Mais tu avais toutes les informations. Il y a des pièges, il était sur la carte. Les ennemis, tu étais là, tu as su qu'est-ce qui allait se passer dans quel ordre tout le long de la game. Fait que ça le fait vraiment bien.
Il y a même des stratégies justement pour mitiger ce hasard-là. On peut être en position d'avantage ou de désavantage. Quand on est avantagé, on va tirer deux cartes puis choisir notre préféré. Et si on est désavantagé, ben c'est l'inverse. C'est que l'ennemi va piger deux cartes puis on prend la pire pour nous. Donc, il y a il y a certains scénarios là, ça, qui peuvent créer des situations où tu aurais plus qu'une carte d'échec critique, mais a priori, si tu es avantagé, tu ne peux pas avoir d'échec critique. Donc, il y a vraiment une façon de mitiger ces worst outcomes-là de façon très, très efficace. Donc, on se sent beaucoup plus en contrôle. Non, c'est un drop intéressant. C'est différent. Oui,
C'est ça qui arrive quand tu es branché direct dans la console.
Voilà. Comme je disais tantôt, c'est un jeu qui est très difficile. Il a la réputation justement d'être extrêmement difficile avec les joueurs, mais il n'y a pas le choix de l'être, sinon il ne serait pas un bon puzzle parce qu'on pourrait s'appuyer sur des stratégies qui marchent tout le temps.
Mais c'est difficile, mais c'est fair.
Absolument.
Mm-hmm. Parce que tu as toute l'information que tu as besoin maintenant, tu sais, fais la meilleure stratégie que tu peux.
Mm-hmm. Puis on n'a pas listé là, ici toutes les options qu'on a en réaction, mais il y a typiquement toujours plus qu'une façon de réagir à quelque chose qui se passe. Donc, on n'est pas obligé, quand on se fait blesser, on n'est pas obligé de prendre le dégât. On peut scraper des cartes, exemple, qui est extrêmement coûteux, qui raccourcit la durée, qui nous épuise plus rapidement.
Ouais. Ça peut être mort. Ouais.
J'adore cette mécanique-là, là, de s'épuiser.
Oui, puis quand t'es épuisé,
tu joues plus.
Puis les autres continuent de jouer, puis t'es regardes.
Oui, c'est ça qu'on appelle épuisé, dans le fond, parce que t'es juste mort pour le scénario. Là. Ouais. Donc, tu reviens, ton personnage n'est pas complètement mort, mais bref, t'es en train d'échouer ton scénario.
Tu peux-tu mourir?
Non. De façon permanente, pas du tout. Mais justement, le jeu est vraiment monté alentour de cette notion-là d'encounter. Tout le reste du jeu alentour, il est alentour. Tu joues des encounters, puis le RPG alentour, c'est de la couleur. C'est du fluff.
Ouais, à la limite, il pourrait avoir rien de ça. Il n'y aurait pas de narrative. Le jeu, il serait puissant au niveau mécanique. En même temps, ça donne le goût d'avancer dans l'histoire. Fait que c'est pas inutile qu'il y ait tout ça. Mais
ça rejoint un peu tous les styles de jeu en mode campagne là, qu'on va retrouver dans Warhammer. Puis dans...
Exact. Mmh. Exact. De focusser sur un moment-to-moment qui est solide, puis de te donner une raison de l'explorer. Mmh. Puis, c'est ça. Donc, il y a une mécanique que je n'étais pas convaincu au début que j'allais aimer de ce jeu-là. Qui est les personnages, dans le fond, quand on commence un personnage, il y a un objectif. Quand son objectif va être rencontré, va être rempli, on va prendre la retraite. Ce personnage-là va prendre sa retraite. Ce qui fait que tu dois commencer un autre personnage. Mais c'est une des meilleures idées qu'ils ont eues parce qu'en général, quand tu viens de passer 15, 20 scénarios avec le même personnage, tu as fait le tour de la question. Il est peut-être temps que tu envoies un autre. Puis le jeu, donc, ces objectifs-là déverrouillent des nouveaux personnages. Le jeu est vraiment réputé pour avoir une boîte énorme où tout est scellé dans la boîte, puis t'ouvres pas tout. Puis ça se peut que tu finisses la campagne, puis t'es pas ouvert tout ce qu'il y a dans la boîte.
Ah, parce qu'il y a des choix que tu fais aussi qui.
Oui,
qui scrapent d'autres choix, genre tu pourras pas les faire plus tard parce que tu mets des collants, c'est tes fiches ou.
C'est ça. T'as, non seulement dans la campagne, fais forcément que tu verras pas tous les scénarios, mais tu peux aussi appliquer des modificateurs sur des cartes. Là, on rentre dans le détail en maudit, mais tu mets des modificateurs sur des cartes que si quelqu'un rejoue la même classe de personnage, la classe est modifiée à tout jamais.
Mais ça, c'est cool. Fait que chaque table de jeu, chaque boîte de jeu va offrir une expérience un petit peu unique, un petit peu différente.
Ce jeu-là est vraiment à l'intersection des jeux Legacy qui ont été populaires depuis une dizaine d'années, qui commencent un peu à s'épuiser. puis a amené cette touche-là de RPG de big box qui a fait un effet de vague dans l'industrie. Là. L'idée de vendre une boîte aussi grosse que ça, que le prix d'entrée pour un jeu était à 150$ en montant, avant Gloomhaven était ridicule.
Ça, c'est avant le prix pour louer le pick-up pour l'amener chez vous.
Exact. Puis, fait que c'est rendu à cette heure, tu veux des jeux dans ce style-là. T'sais, le retour de HeroQuest n'a pu qu'arriver dans un monde où Gloomhaven est un des plus gros jeux de société au monde. Parce que le prix demandé est rendu normalisé. Grâce à Gloomhaven.
Je sais pas si tu t'en allais là, mais tu sais, je pense que de parler de ça, de la grosseur de la boîte, de la complexité, du nombre de personnages et tout, peut peut-être faire un peu reculer certaines personnes. Puis moi, Gloomhaven, j'ai pas joué au jeu, appelons-le original. J'ai joué à une espèce de offshoot qu'ils ont fait à un moment donné qui s'appelle Gloomhaven Jaws of the Lion. Puis si tu y vas, on va te laisser y aller. Là.
Ben, je vais y aller, mais on peut en parler immédiatement.
C'est comme un spin-off, dans le fond.
En fait, il est sorti plusieurs années plus tard, puis moi aussi, j'ai commencé par là. Gloomhaven m'intéressait, je l'entendais parler, ça semblait comme un perfect fit pour, avec un groupe d'amis, quelque chose à jouer.
Mais t'avais pas d'amis.
Exactement, fait que là, ça prend un peu plus de temps. Là. Je l'ai magasiné sur Fiverr, puis on a réussi à faire de quoi.
Parce que les amis ils viennent dans la grosse boîte.
Dans la grosse boîte. C'est la version Jean Coutu. OK.
Wow.
C'est une joke de 92.
Ça nous prendrait sur le board, ça aussi. Mais Jaws of the Lion, dans le fond, la version courte là, de tout le rôle de Jaws of the Lion, c'est si tu veux commencer à jouer à Gloomhaven, il n'y a aucune raison d'acheter Gloomhaven. T'achètes Jaws of the Lion. Ouais. Ça se veut un jeu d'introduction parce qu'une des critiques qu'il y avait de Gloomhaven, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement difficile, mais que il y a des gens qui vont abandonner en dedans de deux scénarios parce que c'est tu vas perdre rapidement. Parce que tu n'as pas vraiment de onboarding. Tandis que dans Jaws of the Lion, ben c'est carrément un jeu d'introduction. Il coûte moins de la moitié du prix de Gloomhaven. On a quand même accès à 25 scénarios, mais les 5 premiers sont carrément une campagne tutoriel.
Ah, c'est fou, là, parce que de ce que j'ai compris de Gloomhaven, tu commences, tu as toutes les cartes de ton personnage.
Ouais, tu as des cartes avec le X dessus qui sont suggérées comme prends-les pas tout de suite, attends de comprendre le personnage, mais tu as toutes les cartes de niveau 1 puis let's go.
Tandis que Jaws of the Lion, tu commences avec vraiment peu de cartes, puis dans tes 5 premiers scénarios, à chaque scénario, tu en rajoutes.
T'as même des cartes qui n'ont pas le texte complet.
Oui,
qui n'ont pas toutes les règles dedans.
Les swaps.
Puis là, tu fais comme, OK, t'es rentré sur le 3, enlève-la, prends les autres.
Avec donc, la mécanique au complet, puis les effets de plus. Puis, ouais.
Il est vraiment monté comme un tutoriel. T'as vraiment comme, joue, puis quand tu vas être rendu à ouvrir la porte, viens relire ici. Ouais. Donc, il te tient la main pour les 4 premiers scénarios, le 5 étant un boss. Mais il te tient la main pour ces 5 premiers scénarios-là. Puis, en plus, il se passe avant, dans la ligne du temps de Gloomhaven. Fait que t'as intérêt à le visiter avant. Et les personnages de Jaws of the Lion sont jouables dans Gloomhaven aussi. Donc, tu te rajoutes 4 personnages. En fait, t'as pas intérêt à les continuer parce qu'ils ont pas eu de retraite, right? Mais tu peux les commencer, donc tu peux jouer les 4 personnages de Jaws of the Lion dans la campagne de Gloomhaven.
Avec la retraite, puis... Ouais. Nice.
Puis du côté monétaire, maintenant, écoute... C'est quoi la différence de prix entre Jaws of the Lion?
Le prix a varié avec les années. Moi, j'avais payé 45$ pour Jaws of the Lion. Je pense qu'il est plus autour de 60 présentement.
Mais ça reste quand même plus abordable.
Vraiment plus abordable. Puis c'est une boîte plus standard. Il fit beaucoup mieux sur une tablette d'humain. Là.
Oh oui,
pas de maniaque de board game qui est prêt à accepter cette grosseur de boîte-là. Là.
Le setup est moins long parce qu'au lieu d'avoir au lieu d'assembler tes cartes de tes encounters, là, comment tu avais appelé
les scénarios,
t'as un livre de scénario, puis tu joues direct dans le livre. Fait que tu rouvres le livre, tu places les morceaux.
C'est cool. Pour vrai, là, c'est. Je m'ennuie vraiment de ça en jouant à Gloomhaven. Parce que le setup, c'est loin d'être un des jeux qui est le plus long setup, Gloomhaven. Là, mais t'as vraiment comme des piles de tuiles. Tu dois prendre les obstacles aussi. Puis souvent, les tuiles, pour. Mettons, s'il y a un mur normalement, mais ils veulent faire un passage, ben t'as des tuiles de passage que tu mets par-dessus. Fait qu'il y a quand même un petit peu de friction de setup de scénario, disons-le comme ça. Jaws of the Lion, il élimine tout ça, même où les ennemis se placent est directement dessus. Donc, ça streamline tellement. Puis ça fait aussi que le art est custom à chacun des scénarios. Ils ont annoncé en fait que maintenant que la suite de Gloomhaven est sortie, j'en reparle dans pas long, ils vont développer des livres pour Gloomhaven et pour la suite aussi, pour avoir la même expérience de jeu streamliné, d'avoir juste des livres que tous les scénarios sont dedans, parce que c'est juste mieux. Genre, je pense que c'est bien d'avoir les tuiles pour pouvoir faire des scénarios de la communauté, de pouvoir développer ces scénarios. Absolument. Là, tu ne veux pas enlever ce niveau de flexibilité-là. Mais mon Dieu, que ça streamline l'expérience. Ouais. Puis juste le hard custom, c'est niaiseux, mais souvent, c'est ça, dans Gloomhaven, tu sais, t'as des cavernes, t'as de la neige, t'as des... Bon, tu sais, fantasy stuff, là, t'as tous les classiques setups de fantasy, tandis que l'autre, tu vas littéralement voir ton histoire représentée.
T'es dans
des égouts, tu vas voir les lumières de l'égout dans le passage, tu vas... Et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin.
C'est un autre qui dit, il y avait comme 4 cadavres quand t'es rentré dans la pièce, t'es voix, ça arrive, là, tu sais. Mm-hmm.
Puis, il y a combien d'heures de jeu, mettons, dans ce box-set-là d'introduction?
Ben, calcule que tu joueras pas les 25 scénarios. Tu vas en jouer la majorité. Donc, tu vas jouer à peu près 20 scénarios, je te dirais.
Ouais. Fait que si tu joues à deux, ben, c'est facilement une vingtaine d'heures, mais en montant. Là,
fait qu'à quatre, nous autres, ça a été ça. Ben, tu sais, c'est une vingtaine de sessions de jeu. Donc, entre une heure et demie, deux heures, disons.
Okay, mais ça vaut la peine, non?
C'est plus de temps que la plupart des jeux de société que j'ai achetés, là, oui. En réalité.
Puis, il faut s'attendre aussi à recommencer parfois certains scénarios. Là. Je ne sais pas si tu y allais. Là.
Non, je ne vais pas.
Mais c'est parce que dans le fond, le prix de l'échec, c'est que tu recommences en gardant certains des éléments que tu as ramassés. L'expérience que tu as acquis sur ton dans le fond, pendant le scénario, t'échoues, ben, tu gardes l'expérience en banque, là, tu ne l'appliques pas tout de suite à ton personnage, là, mais tu recommences le scénario. Puis quand tu l'appliques, ben ça te donne un méchant boost. Parce que, tu sais, fait que si tu échoues, comme un moment donné, il y en a un qu'on avait échoué nous autres deux, trois fois, la troisième fois, quand tu le réussis, parce que un moment donné, tu réfléchis à qu'est-ce que tu as fait comme erreur, à bon, tu sais, la prochaine fois, on va faire telle affaire, on va peut-être attaquer celui-là en premier parce qu'on sait que son habileté secrète va arriver puis va nous sacrer une volée parce qu'on ne savait pas au départ, mais là, tu triches parce que tu l'as déjà vu.
Il y a un côté très jeu vidéo à la progression, là, justement, que si tu pognes des coffres qui sont dans le scénario, tu vas garder le contenu du coffre puis il ne sera plus disponible pour le scénario suivant. L'argent, évidemment, bon, etc. Mais en plus que ça aussi avec Jaws of the Lion, c'est que il y a juste 25 scénarios, mais honnêtement, la qualité des scénarios individuels est meilleure. Il y a beaucoup plus de variété. Il y a beaucoup moins de filler, hein, juste de scénarios qui sont là pour étirer le stock. Fait que personnellement, je pense que j'ai mieux aimé à date. Là, j'ai pas fini encore Gloomhaven, mais j'ai mieux aimé en général l'expérience avec Jaws of the Lion. J'ai entendu dire que la suite a beaucoup plus de variété. Justement parce qu'elle a été développée après Jaws of the Lion, disons qu'ils ont appris. Mais, donc, il n'y a littéralement aucune raison de ne pas jumper avec Jaws of the Lion. C'est plus linéaire, il n'y a pas tout le côté de la map, des cartes de voyage, tous ces trucs-là, mais c'est streamliné. C'est plus des trucs qui sont bons, puis moins de ce qui ralentit le jeu. Donc, excellente intro, mais il y a vraiment comme de quoi de cool après ça à commencer, puis à avoir comme le côté très, très sprawling, très RPG. T'sais, on jouait à Gloomhaven, des fois, t'as 6-7 scénarios de disponibles à jouer parce que t'as débloqué des trucs optionnels, t'as été explorer une autre questline. Donc, oui, il y a un feeling d'ouverture qui est pas là dans Jaws of the Lion, mais je pense que pour commencer, c'est mieux. C'est tout simplement mieux.
Puis, la question pour les papas.
Ouf!
Si tu joues à partir de quel âge on peut considérer jouer à ça?
Le jeu offre une difficulté flexible. Dans le fond, tu as toujours l'idée que tu peux scaler up ou down la difficulté du jeu, mais c'est exigeant tactiquement. Donc, c'est sûr que je dirais probablement 12 ans. Je suis pas un parent, là, fait que c'est sûr que ma perspective est assez limitée, mais il faut que tu aies la capacité de réflexion, de réaliser l'impact de tes actions à un niveau assez... assez sérieux.
Ouais, clairement qu'on ne commencera pas une game avec nos deux maternelles.
Non, mais avec le...
Avec le plus vieux.
Qui a 10-11 ans, peut-être.
Ouais, c'est ça. Je peux imaginer. En fait, s'il est en âge de jouer à un war game, je peux imaginer qu'il sera en âge d'attaquer quelque chose comme Gloomhaven. Tout à fait. Ensuite, par contre, truc en vrac à savoir, c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup d'administration. On a comment qu'on active les monstres, traquer les points de vie de tous ces monstres-là. Il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier, updater à chaque fin de tour, enlever les boosts puis les debuffs à la fin des tours, les conditions. Bref, il y a plusieurs applications qui existent pour tablette, téléphone, qui permettent de gérer ça. À mon avis, c'est plus que nice to have. Là. Je peux même pas imaginer maintenant jouer sans ça. J'ai fait les deux, trois premiers scénarios sans. Aussitôt qu'ils ont rentré les éléments, là, pour le, du côté des élémentaux que tu actives, désactives. La seconde que ça s'est rentré dans le game, j'étais comme, OK, ça prend quoi pour le gérer? Parce qu'on va tout le temps les oublier, c'est sûr et certain. Donc, quand on a commencé à jouer, il existait Gloomhaven Helper, qui a établi vraiment le standard de comment faire ce type d'application-là. C'est extrêmement bien conçu. Malheureusement, il n'est plus disponible. Ceux qui l'ont acheté, gardent accès, mais bref, il n'est plus disponible. Je ne rentrerai pas dans le détail. au moins pour la suite de Gloomhaven, Frosthaven, il existe une application officielle. Il va bientôt en avoir une pour Gloomhaven aussi. Mais sinon, vous pouvez regarder les applications X-Haven Assistant, X pour permettre justement toutes les déclinaisons de Gloomhaven, et Gloomhaven Secretariat.
J'allais tantôt faire un gag d'adjoint administratif quand tu parles d'administration. Fait que...
voilà. Puis je pense que c'est Secretariat qui regroupe comme toute la suite d'outils que tu peux avoir besoin.
Oui,
c'est ça. Nous, on utilise Scenario Tracker qui nous permet de garder toutes les quêtes qu'on a faites, lesquelles qui sont déverrouillées, etc. Au lieu de faire les petits X sur la carte et tout le truc. Ça streamline encore une fois beaucoup l'expérience. Mais au moment-to-moment gameplay, les différentes applications là, offrent la possibilité justement de tout suivre les points de vie de tous les ennemis au lieu de mettre mettre un petit carton sur la table que tu mets les points de vie, puis là, faut que tu gardes un œil dessus. C'est quel numéro l'ennemi là? Il reste combien de vie sur le petit plateau? Ça fait vraiment... Ça raccourcit probablement d'un tiers, les games.
J'ai la même chose. Là, j'ai commencé sans application, puis je l'ai rajouté après, puis... Tu sais, je track pas tout sur l'application, là, parce que, mettons, nos personnages, on les met pas, même si l'application pourrait le faire, à part pour, mettons, l'expérience là, qui est plus facile à tracker là, que de se rappeler. Mais oui, pour la gestion des monstres, des points de vie, là, au lieu de, c'est tellement plus facile. Puis les cartes aussi de leurs actions qui passent par l'application, en tout cas, moi j'avais Helper. Là.
Ouais.
Les cartes aussi, fait que t'as plus besoin de demander, faut brasser le paquet de cartes. Tu dis, OK, c'est go, on flippe les cartes pour les actions, puis flou, celle des ennemis, puis. C'est les joueurs, tu pourrais techniquement, mais en même temps, c'est le fun d'avoir ton paquet.
Tu remplis, dans le fond, tu peux juste rentrer tes initiatives dans l'application, tu fais draw, puis il sort les ennemis, puis il place l'ordre d'initiative automatiquement.
Ça sert à le jeu un peu, ça fait penser à Zombicide.
OK.
Tu sais que tu as le même genre de. Tu as une application, tu sais, quand faut que tu fasses spawner les zombies, tu regardes tes cartes, combien j'en fais apparaître, puis il faut que tu calcules, tu passes le bouton, puis ça te dit. Là.
Ben, c'est ça, c'est. Ça se joue sans l'application, mais c'est un.
Ouais, mais ça enlève la partie.
Ouais, ça streamline.
Pas jeu du jeu.
C'est ça, exact. J'ai aucun problème avec ce genre d'application-là parce que j'en ai pas de besoin pour jouer, mais j'ai l'option de le faire. Mm-hmm. On a déjà eu des discussions sur tout ça dans le passé. Bref, je le recommande fortement. Puis dans la. Gloomhaven Helper avait seté le standard, je pense que les autres le font aussi. Tous les trucs que tu veux gérer sont optionnels. Tu choisis le niveau d'automatisation que tu veux. Mm-hmm. Donc, tu peux, genre, j'aime mieux justement garder mon XP sur la petite roulette. Ben, fine, traque-les pas là. Tu veux juste que les ennemis soient traqués, mais pas leur carte d'action. Fine, tu peux faire ça aussi. Donc, tu as vraiment comme les options complètes sur comment tu utilises l'application. Très bien fait. Très, très bien fait. Puis finalement, la dernière chose que j'ai à parler avant de passer au prochain segment, c'est qu'évidemment, comme j'ai mentionné, il y a la suite de Gloomhaven, Frosthaven, qui est officiellement sortie en 2023. Également, elle aussi, après une longue campagne Kickstarter, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore ouverte parce que, il faut finir Gloomhaven avant, puis on n'est pas proche de finir. Pour vrai, si j'ouvre ça en 2024, je vais être surpris. Ça rajoute à ce que j'ai entendu, là, encore une fois, c'est tout ce que j'ai vu passer, donc avec un grain de sel, mais le jeu est beaucoup plus centré alentour du outpost de Frosthaven. Donc, il y a une grosse, grosse partie de city building qui est au centre du jeu, puis qui informe les quests qu'on va avoir accès et l'histoire. Donc, je trouve que ça a l'air d'être une vraiment une belle facette qu'ils rajoutent au jeu. Ils ont rentré une mécanique aussi de passage de temps, d'exemple. J'ai rencontré un personnage, il va revenir dans un mois. Mais il se passe une semaine entre chaque scénario. Il y a une notion de ligne du temps qui est respectée. Il y a le passage des saisons, stuff like that, qui impacte la vie du village. Donc, c'est des trucs que j'ai vraiment hâte de visiter. Je suis pas prête d'arriver, mais on va se rendre. Mais bref, les critiques semblent dire aussi que les scénarios sont beaucoup plus variés, comme je mentionnais tantôt. Puis évidemment, on peut ramener toute la panoplie. Donc, les personnages de Jaws of the Lion, Gloomhaven, peuvent être joués. Donc, les 4 de Jaws of the Lion, les 16 qu'on peut potentiellement déverrouiller dans Gloomhaven, et les plus de 16, si je ne me trompe pas, de Frosthaven, ce qui fait que ça commence à devenir un hobby en soi, comme les Wargames le font. Donc, j'ai hâte justement de voir c'est quoi l'avenir pour ce jeu-là en tant que plateforme, mais on commence à explorer la notion d'un jeu Dungeon Crawler coopératif comme un hobby en soi. C'est une idée que j'ai hâte de voir plus explorer parce que je trouve ça très intéressant.
Puis il y a un côté aussi où l'histoire continue. Fait tu dois toujours vouloir le jouer avec les mêmes joueurs, avec le même groupe. Ça va être plus difficile d'embarquer. Quand viens jouer avec nous autres, on joue à Gloomhaven en fin de semaine.
Je te dirais que ce qu'on trouve le plus drôle à date, c'est que nous, on joue une fois par semaine. Puis bon, tu sais, tous ceux qui ont joué à Donjons et Dragons le savent, là, c'est time permitting. Fait que des fois, tu vas être un mois et demi sans jouer. L'histoire, là, t'en calisse un peu. Hein? Parce que tu lis, OK, on fait quel scénario là? T'as juste des points sur une map. C'est quoi déjà celui-là? Ah, on va aller lire le setup, là, ça va donner un petit peu d'intro. Là, j'ai aucune idée de ça. Au moins dans l'application que je me sers, Storyline Tracker, t'as un segment Preceding Events.
Ah, c'est nice.
Qui te donne quand même un peu le blur, mais même avec ça, les arcs narratifs des différentes lignes. Jaws of the Lion est plus straightforward, fait que c'est plus facile. Il y a une seule intrigue, right? Mais rendu dans Gloomhaven, pour vrai, là, ouf, c'est une fois par semaine, c'est difficile.
Puis, Dan, tu disais qu'il y avait de l'expérience à chaque scénario. Fait que si tu joues pas pendant certains scénarios, mais que les autres, ils jouent, est-ce que tu te retrouves désavantagé ou peux avoir plus de difficultés?
Le jeu scale. Dans le fond, le niveau de difficulté que le jeu te suggère, parce que le niveau de difficulté impacte à quel point les pièges font mal, combien d'argent tu gagnes quand tu tues un ennemi, ben quand tu ramasses du cash qui est droppé, puis les stats des ennemis, les stats de base des ennemis. Puis ce niveau de difficulté-là, c'est un petit calcul boboche là, de la moyenne du level des joueurs divisé par deux rounded up. Ce qui fait que si tu as des joueurs de moins haut niveau, ça va scaler down le scénario. C'est pas parfait, mais ça n'a jamais été un problème. Nous, on joue tout le temps au niveau suggéré. Il y a eu quelques scénarios faciles, mais c'est jamais comme un... ça n'a pas de sens, l'équilibre va manquer à track. Donc, en fait, nous, quand on faisait Jaws of the Lion, le quatrième joueur est arrivé vraiment sur le tard. Donc, il a commencé niveau 1, tandis qu'on était tous rendus 6-7. Mais ça a tout rééquilibré. Puis ça a quand même bien été. Puis le dernier scénario a été extrêmement exigeant, comme il se doit. Là. Donc, ça scale assez bien comme difficulté.
Cool.
Puis si jamais même tu as des joueurs, justement, qui swap in and out, le jeu le permet. Alors quelqu'un qui n'est pas dispo, mais il peut prendre un nouveau bonhomme ou il peut prendre un personnage qui a joué un petit bout puis rejoindre la gang. Dans les deux jeux, je sais pas, Frosthaven doit être semblable, on incarne un groupe de mercenaires. Donc, même narrativement, c'est
fluide.
Exact. Il n'y a vraiment aucun problème à remplacer à swapping out un personnage.
Il toussait cette semaine, fait que non.
On fait pas de gag là-dessus.
J'arrive pas à imaginer ce qu'il pourrait avoir de drôle là-dedans. C'est d'être extrêmement mauvais goût.
Réflexion.
C'était pas notre meilleur. Hein?
Oui, un peu sur réflexion sur le taco, messieurs.
Qu'est-ce que c'est bon?
Le taco, je parle pas ici des délicieux amuse-gueules, croustillants ou non. Je parle pas non plus de ma Kia, qui m'a coûté 1 600$ pour refaire les freins arrière le mois passé. C'était définitivement pas croustillant.
Ben, en fait, ça l'était, peut-être le problème.
Yeah. Ouais, c'est ça, l'était avant. Maintenant, ça croustille plus. Et voilà, fais la réflexion. Non, j'aime pas.
Il travaille pour repayer ses. Il n'y a pas d'argent pour pas le temps faire une réflexion.
Faut que je parle, les gars. Bye. Non, je parle de ce.
Tu payes rarement en sortant.
Je sens que tu parles en arrière. Non, je parle de ce fameux concept qui aura valu à ceux qui le connaissent le titre de King Geek dans les fameux quiz Facebook en 2010. Je parle de la mécanique de ce jeu patrimonial qui sépare le bon grain de l'ivraie et le contemporain du old school. Je parle du taco, qui est le système qui est utilisé dans les premières éditions de D&D pour déterminer si une attaque touche un ennemi en fonction de lancer d'un des 20, là, ou un Nicosaèdre pour les amateurs de polygones qui nous écoutent.
En assumant que le dit personnage ait une classe d'armure de 0.
Exactement. Ouais. Je vais l'expliquer, en fait, parce que pour nos auditeurs, qui sont moins familiers avec le terme, c'est une mécanique qui était utilisée dans les premières versions de Donjons Dragons, puis qui signifie effectivement « to hit armor class 0 », donc pour toucher une classe d'armure de 0, puis qui représente grosso modo là, la cible à atteindre sur un des 20 pour toucher un ennemi.
De toucher moyen.
Et voilà. Je vous épargne ici là, le reste des arabesques mathématiques puis des rituels obscurs qui devaient être effectués pour déterminer si on arrivait à blesser les ennemis avec des niveaux d'armure différents.
Parce que je trouvais que ça pétait plus haut que le trou. Fait qu'il fallait que...
De toute façon, le bug de l'an 2000 a eu raison du taco avec la troisième édition de D&D qui est sortie cette année-là puis qui l'a remplacé par une mécanique beaucoup plus directe.
C'était troisième édition en 2000?
Troisième édition en 2000, oui.
Yes.
Ce qui est intéressant à mes yeux avec le fameux taco, c'est quand même l'impact que ça a eu, cette mécanique-là, sur l'univers du jeu de rôle, autant sur les jeux de table que sur les jeux vidéo qui rentrent dans la même catégorie. Si on revient aux origines, peut-être pour comprendre un peu d'où ça vient, de la fameuse classe d'armure zéro qu'on cherche à atteindre avec un Nicosaèdre, on découvre que Gary Gygax,
donc à qui on attribue généralement la création de D&D, lui et son compatriote, dont le nom m'échappe. Mm-hmm. C'est un amateur de jeux de guerre. Ouais,
c'est ça qui s'appelle « Dont le nom m'échappe ». ».«
Dont le nom m'échappe ». ».« Don les noms m'échappe ».
Je veux ça sur un chandail.
J'étais où, là-dedans?
Tu parlais de Don.
Don. Don. Ouais. Non, ça, Gary
c'était
Gagax.
Un parrain de la mafia, c'était le Don, ben, on m'échappe.
Gary puis Don étaient tous les deux des amateurs de jeux de guerre, de bataille navale. Mm-hmm. Fait qu'on parle ici des jeux de type Warhammer avec des dés, un tape à mesurer, des petits bateaux en plomb. Fait que la classe d'armure, dans ce temps-là, ça référait aux classes de navires de guerre, comme des frégates, des cuirassés, par exemple. Right. Chaque navire avait un type de blindage différent qui rendait plus ou moins difficile à couler. Fast forward en 1979, et M. Gygax, il réutilisait un concept similaire pour représenter l'endurance puis la défense des différents monstres qu'on pouvait rencontrer dans son fameux donjon. Bon, elle n'est pas branchée, mais j'avais comme un drop de fouet. Fait qu'imaginez un donjon.
Inexcel.
Yes. C'est tout aussi valable. le concept existe.
Mais oui.
Excusez.
Le concept existe encore aujourd'hui dans la version la plus moderne du jeu. Puis c'est un concept qui est utilisé par l'écrasante majorité des jeux de rôle non D&D sous différentes formes. Ça fait aussi partie des mécaniques de base de nombreux jeux vidéo qui se sont inspirés de ces fameux jeux de rôle avec toutes les étrangetés que ça peut apporter. Donc cette notion-là où j'attaque un ennemi, j'ai une chance de le toucher, j'ai une chance de le manquer et c'est rarement 100%. Fait que je vous invite à faire une recherche rapide sur YouTube pour XCOM Poorhaim pour apprécier le catalogue de vidéos sur la série XCOM où l'élite de nos soldats terriens envoyés pour repousser l'invasion extraterrestre n'arrive même pas à atteindre leur cible malgré que leur arme soit littéralement en contact avec l'ennemi.
Je voulais la foule qui boue, mais pour vrai, tu nous l'avais envoyé dans le chat puis j'étais... J'écoute la vidéo où je suis en tabarnak. Je suis comme, oh, je suis pas capable. Oh, ça m'irrite.
Puis l'audio des gars qui jouent comme à 3 ou 4 ensemble, ça ajoute une couche.
En fait, c'est ça qui vaut la peine de l'écouter.
C'est comme 3 fois de suite, là. L'extraterrestre est dans le coin d'une maison. L'un qui tire par la fenêtre, il rate à genre un pied de distance. L'autre, il ouvre la porte, il est collé, genre bout portant, il rate aussi.
Il est collé dessus, c'est écrit 47% en haut de sa tête. T'es comme, hey, il liche le bout de mon gun, ok? Come on!
Yeah, on peut aussi passer à la série Fallout, qui, à partir du troisième opus, introduit les VATS, qui ralentit le temps dans le jeu pour nous permettre de tirer sur les membres de nos ennemis selon un pourcentage de réussite, puis qui produit parfois des résultats tout aussi cocasses que ceux de la série XCOM. Petite parenthèse, les VATS ou les Vault-Tec Assisted Targeting System, selon le wiki de Fallout, c'est une technologie de combat avancée dont les origines de développement ont été perdues au fil du temps. Donc, comme quoi, en 2277, plus personne ne se souviendra de Gary Gygax, de Don, ni de notre podcast. Sorry, guys.
Oh.
Je suis relativement en paix avec ça, je te dis.
Mais la raison pour laquelle je tenais à vous parler de tacos aujourd'hui, c'est que durant la Grande Peste, pour maintenir une certaine vie sociale, j'ai proposé à des amis, dont Dan, ici présent, de régresser jusqu'à notre tendre puberté, puis de tenir une soirée hebdomadaire de jeux de rôle.
Tendre, en tout cas.
Tendre.
Yeah, boy.
Ah, tu parlais pas de régresser jusqu'à la puberté de cette façon-là.
Bon, ce que tu faisais avant qu'on se parle, ça ne me regarde pas. Les semaines se sont transformées en mois, puis après une décennie de pandémie, et un passage obligé par la 5e édition du plus populaire des jeux de rôle, j'ai débuté ma lente descente dans l'enfer des jeux de rôle indépendants et des jeux dits « old school ». Pendant que mon portefeuille s'allégeait à grands coups de Kickstarter, j'ai découvert le travail d'un dénommé Chris McDowell, qui est l'auteur du système de jeu « Into the Odd », puis qui m'a fait repenser l'entièreté de mon approche puis de ma compréhension des mécaniques de c'est quoi un jeu de rôle puis comment ça se déroule un jeu de rôle. Into the Odd, c'est un système qui est considéré new school. Tu sais, on doit mettre une étiquette à toute dans la vie.
Bien sûr.
Avec des règles de base qui tiennent sur une page. Recto seulement. Fait que jouer à Into the Odd, ça tient sur une 8,5 par 11. C'est écrit même pas des deux côtés. Pas besoin d'écrire en marge, ni en diagonale, ni en tout petit. C'est vraiment simple. Fait qu'on parle ici là, de 3 statistiques, 3 des 6 down the line, roll under avec un extra bacon puis une grosse old beer. Mais le vrai génie du système, c'est de retirer toute cette notion-là de jet d'attaque. Il n'y a pas de jeu d'attaque dans le jeu.
Mm-hmm.
C'est fini le taco, fini les attaques qui ratent la cible. Les combats sont violents, sont rapides, sont décisifs, puis ils sont jamais sans conséquences. T'arrives face à face avec un ennemi, tu décides de l'attaquer, roule tes dommages. Les dommages, c'est direct. Après ça, l'ennemi va répliquer. Donc, c'est, tu peux pas éviter, tu peux pas avoir un coup de chance de t'en sortir. Évidemment, le système est fait en conséquence de ces règles-là, mais la tension que ça amène dans le jeu durant la partie, ça devient palpable dès que le risque de combat se présente, puis les joueurs se retrouvent instinctivement à chercher des alternatives pour réduire les risques puis les dangers. Rencontrer un troll dans un donjon, ça mène soudainement à une session de négociation avec la bande de gobelins du niveau précédent pour tenter de les recruter ou à mettre en place une stratégie complexe pour piéger le troll sans que le maître de jeu demande dangereusement de rouler pour l'initiative. Parce que ça finit jamais bien. Donc, en disant non au taco, le jeu se retrouve à récompenser la créativité puis le travail d'équipe des joueurs plutôt que juste le simple destin d'un jet de dés. Puis je suis totalement vendu à cette idée-là. Tu parlais là, de faire une levée de fonds là, tantôt pour des t-shirts, tout ça.
Ouais.
Moi, je proposais de faire un Patreon pour Divan Quiz juste pour que je puisse me tatouer le visage british de Chris McDowell, quelque chose comme ça, parce que j'y vois presque un culte depuis que j'ai découvert son œuvre. Puis en voyant l'impact que ça avait de retirer ces mécaniques-là, de toucher comme le Thing to the Hub, mais ça m'amenait à réfléchir et à considérer c'est quoi les autres, quelle autre mécanique peut-être qu'on prend pour acquis dans des jeux, puis qu'on pourrait repenser. Ou retirer, ou voir comment est-ce que les jeux deviennent différents. Fait un peu comme Vampire Survivor, qu'on parlait tantôt.
C'est clairement Survivors qui est au pluriel, puis pas vampire.
Il n'y a pas de vampire, c'est voilà. Ça. Plusieurs survivants, d'aucun vampire.
Puis survivants, pas tant.
Ouais, non, c'est ça. Ouais. Aux millions d'ennemis que tu tues par run. Ouais.
Donc, on a des jeux comme ça qui vont arriver avec des façons de faire différentes, puis c'est ce qui est génial là, de tout ce mouvement-là, old school. Là. On aura l'occasion d'en reparler, puis en tout cas, il y a plein d'opinions sur Internet sur qu'est-ce qui est mieux, puis la guerre est pognée entre les
autres opinions sur Internet.
Donjons
spécial, j'ai jamais entendu
mais
parler
de ça. Nonobstant la couleur des opinions dans les commentaires, la couleur des commentaires Internet, je pense qu'il y a un intérêt à explorer tous ces systèmes-là qui amènent des styles de jeux différents, des réflexions différentes, puis qui peuvent attirer des gens au jeu avec une perspective un petit peu nouvelle. Fait que c'est tous des thèmes que je compte bien explorer d'ailleurs dans nos prochains épisodes.
Je vais essayer de pas. Est-ce que je veux pas t'interrompre?
Vas-y.
OK. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux de rôle sur table. Clairement, je pense que ma vie présentement va m'amener à le refaire. Ça a l'air d'être dans l'air du temps présentement. Mais les dernières sessions que j'avais animées et jouées, ça avait été des jeux qui seraient maintenant New School, I guess. Puis on parle quand même de là au moins 15 ans. Mais j'avais eu un coup de foudre pour deux jeux en particulier, Brain Soda,
yep.
Qui était populaire quand on était au cégep, d'ailleurs, ouais. Où on incarne des acteurs de films d'horreur. Mais c'est un jeu justement qui, par sa structure, se tient loin de toutes les règles complexes parce que c'est pas ça l'intérêt. Puis aussi la notion de mourir fait partie de l'histoire parce que t'es un acteur, ton personnage ne meurt pas, ton acteur ne meurt pas, son personnage dans le film peut mourir, mais de mourir de bonne façon te donne de l'expérience. Donc, ça créait vraiment une dynamique qui était très, très, très différente.
C'est drôle, ce jeu-là.
J'ai adoré ce jeu-là, puis ça m'a. C'est le premier jeu qui m'a amené à penser au jeu de rôle comme façon de construire une histoire ensemble. Je sais que c'est niaiseux, puis ça devrait être implicite, mais à cet âge-là, c'est là que ça a comme cliqué pour moi de dire que la chose la plus importante d'une game, c'est d'avancer l'histoire.
Yep.
C'est pas ce que la satisfaction que tu vas en retirer, c'est de créer des moments. Puis ce jeu-là est entièrement basé sur cette idée-là. Mais l'autre jeu, qui est plus important pour la discussion actuelle, c'était Ninja Burger, où on joue des ninja livreurs de fast-food.
Je jouais ça aussi.
Précis, à l'époque DoorDash de ce monde. Mais,
la mort attend d'ailleurs encore son titre.
Ouais, elle cogne.
On va avoir besoin des ninjas pour s'en sortir. Ouais.
Mais bref, ce jeu-là n'avait que 4 stats, et tout était géré par ces 4 stats-là. C'était le sake système. Donc on avait strength, agility, Kai Uchi et extraneous, c'est-à-dire tout le reste. C'est tout ce que tu avais. Puis le livre du jeu était des feuilles imprimées sur une imprimante maison avec un carton imprimé comme couverture taqué. C'était ça.
À l'opposé du taco.
Ouais, exact. Taqué versus taco.
Mais c'est tout ce que tu as besoin. Tu sais, Into the Hall, on parle de ces trois statistiques. Tu as la force, l'agilité puis la sagesse. Hein, puis. Mm-hmm. c'est un système roll-under. Fait que c'est tout ce qu'il faut. Tu roules 3D6, ça détermine. Fait que t'as une force de 14. OK, je vais ouvrir la porte, mais défonce-la. Tu roules un des 20, puis il faut que tu roules en dessous de ta propre force. Fait qu'il n'y a pas cette notion-là de. Le maître de jeu n'a pas d'informations secrètes que la porte est vraiment dure à briser. Ça va te prendre une difficulté à atteindre de temps. Tu as tout le temps toute l'information que tu as besoin devant toi. Maintenant, le jeu, c'est. Comment est-ce que tu vas avoir une conversation? Comment tu vas proposer des idées? Qu'est-ce que tu vas suggérer comme action pour voir si le maître de jeu va te dire ben, oh, mais ça fonctionne, cool.
Je pense
ou non, le fais-moi un test de force pour voir si tu réussis à le faire. T'sais.
Mais moi, ce que j'aime, parce que la game de Donjons Dragon dont on parlait tantôt, c'est continuer, même si Jeff a parti vers d'autres cieux, puis on va passer par différentes affaires. Mais moi, ce que j'aime encore de jouer à un jeu comme Donjons Dragon avec un système de règles bien encadré, puis tu sais ce que tu dis, en fait, c'est que j'aime les deux. Ce Donjons Dragon me permet de jouer. On joue le soir à partir de 8h30, 9h, parce qu'on a des enfants à coucher comme à des heures différentes, toute la gang. J'ai plus la tête pour embarquer dans quelque chose de super cool et narratif. Mais embarquer dans une histoire qui est déjà écrite, embarquer, s'amuser entre nous autres, dire des niaiseries, rouler des dés, essayer de. Yep. Ce que je trouve le fun, c'est que les deux existent. Puis dépendant de ce que tu as besoin, de ce que le goût, ce que tu veux faire ou de ce que tu es capable de faire, ben les deux se peuvent. Parce qu'effectivement, il n'y a pas grand. Là, en plus, on joue sur une campagne qui est pré-écrite. Il n'y a pas grand place à. Puis elle est hyper railroady, mais on est tous d'accord que. Ouais, quand tu veux jouer une belle game de Donjons Dragon, tu veux que ça soit bien ouvert, là, mais non, celle-là, on est bien content qu'elle soit assez comme dans une track puis qu'on la suive. Ça va avec où est-ce qu'on est, puis tu sais. Fait que c'est fun d'avoir des options, ce qu'il n'y avait pas avant.
Mais c'est ça, mais c'est ça qui est fun, c'est D&D 5e édition apporte un style de jeu qui répond à un besoin. Into the Unknown, c'est un autre besoin. Burger, Ninja Burger. Ou tu sais,
répond à un besoin, c'est autre chose.
Manger. mais moi, je veux dire, il y en a tellement des différents. Puis la seule opinion avec laquelle je suis pas d'accord dans tout ce qui touche ces discussions-là, puis les commentaires colorés sur Internet, c'est que tu peux adapter un système pour tout. Non, c'est la seule.
C'est très tranché.
La principale.
Ouais, d'accord.
c'est l'idée où les gens qui veulent adapter, mettons, D&D 5e édition à toutes. Ouais. Faire un jeu d'horreur, on va adapter 5e édition pour jouer un jeu d'horreur. Mais il y a des vraiment bons jeux d'horreur qui vont t'amener quelque chose de vraiment cool. Je pense que chaque système amène quelque chose. Into the Unknown, ça amène quelque chose, mais je veux dire, il y a une version.
C'est pas un one size fits all.
Non, c'est ça, exactement. Puis je prendrais pas ces règles-là pour faire tout non plus. Il y a un jeu incroyable que je vais vous reparler. J'ai commencé à l'explorer, puis on s'en reparle, c'est sûr, sur le podcast. C'est un jeu de rôle qui est fait pour être joué en 13 sessions. Parce que chaque session est un épisode d'une télésérie. Puis les joueurs sont les acteurs de la télésérie. Puis à chaque.
Ils ont volé.
Brain Soda.
Puis avant de commencer, tu mappes les 13 épisodes. Mm-hmm. Fait qu'il y a déjà comme il y a un arc que tout le monde connaît. Il va y avoir des punchs. Puis tu mappes quel joueur va avoir quel poids dans chaque épisode. Comme ça, il y a toujours des épisodes qui sont à propos de certains plus que d'autres. Fait que même si, mettons, c'est Matt qui a le plus de poids dans l'épisode, mais le poids qu'il va amener, il va pouvoir sortir des, je pense que c'est des cartes, tu vas avoir des meilleures cartes, tu vas avoir des meilleurs jets que les autres. Fait que j'ai tout intérêt, quand c'est moi qui ai la discussion dans l'histoire, à t'impliquer dans ce que je fais, parce que tu vas m'aider. Fait que l'épisode devient de toute façon à propos de toi. Puis là, c'est fait pour jouer. Tu peux jouer Friends, mais tu peux jouer Supernatural, ou tu peux jouer, peu importe. Mais le jeu amène un style d'histoire qui est intéressant, puis je pense que c'est ça que c'est ça que j'en retire de tout ça.
Ouais, ben, écoute, je m'en retiens de partir dans 30 directions parce que je pense qu'on pourrait faire 10 heures là-dessus, ouais, ça, puis on va le faire, je pense.
On va s'en garder, on va les morceler.
Exact.
Jusqu'à l'épisode 106.
En 13 épisodes.
Jusqu'à l'épisode 106, au moins.
Mais 10 heures.
All right.
96 plus 10.
View. C'était ça le thème?
Je me rappelais plus que c'était ça.
Moi non plus.
Je pense que c'est le même. Je veux juste voir si c'est le même que j'avais.
Ah, c'est ça. Je me sens comme ça. View.
Ça, c'est préparé.
mais au moins, on a douté.
mais c'était la version 1. Moi, c'est la version 2.
Ouais, ben c'est ça qui arrive quand il faut aller chercher les drops du podcast dans les archives.
On remercie ici...
Le costumier de Radio-Canada.
C'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé.
Et RIP, le costumier.
Donc...
Oui!
Vas-y, Dan.
Depuis longtemps, je sais que je suis beaucoup plus un fan de jeux coopératifs que compétitifs, qu'on parle de jeux multijoueurs. Fait qu'on reste un peu dans le thème aujourd'hui du jeu de table coopératif. Puis, dans le fond, je vais vous parler de... d'une série, mais d'un jeu en particulier, d'une série. Là. C'est pas tant une série, mais c'est une catégorie, si on veut, qui s'appelle le jeu dont je vais vous parler, Tiny Epic Defenders. Mais il y a un paquet d'autres jeux qui ont été publiés par la même série qui sont des Tiny Epic, plein de patentes. Donc, je reviens un peu en arrière. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser aux board games, là, quand j'étais à peu près à l'université, bien, board games autres que ceux de notre enfance, là, c'est ceux-là qui ne sont pas balancés. Puis qui, Donc, j'ai découvert que ça existait, ce concept-là de jeu coopératif du côté cartonné du monde du jeu, là, pas seulement dans les jeux qui, selon Ginette en 87, brûlaient des cellules là, sur la TV, sur le Nintendo. Là.
Donc, on salue toutes les Ginettes qui nous écoutent.
Oui, qui pensaient que Nintendo brûlait des cellules.
On dit un Nintendo, si on parle de Ginette.
Nintendo, oui.
Ouais, ben, on joue encore au Nintendo, c'est tout des Nintendo.
C'est tout des Nintendo.
Donc, ce qui arrive, puis on en a parlé tantôt, puis je pense qu'on a un bel exemple, c'est que les jeux coopératifs sont souvent plutôt immenses. Puis là, je peux parler juste de physiquement, mettons, là, la boîte de Gloomhaven.
C'est ça, Gloomhaven.
Qui crée des entorses lombaires à chaque personne qui l'achète. Là. Donc, c'est pas un problème, là, mais quand on joue dans un sous-sol sur une table en plastique en spécial au Canadian Tire. Par contre, quand j'ai voulu traîner un ou deux jeux dans un voyage l'été dernier, qu'on partait pour quasiment deux semaines au Nouveau-Brunswick, que j'ai regardé le coffre de mon auto.
Tu traînes pas Gloomhaven.
Mettons qu'il y avait d'autres choses plus importantes.
J'avais Gloomhaven ou mon fils.
Désolé, Fiston. On a une Gloomhaven, tu la strappes dans le siège d'auto.
On a fait des choix.
Je vais laisser
de toute façon, il y a des amis dans le bord de Gloomhaven.
Mais oui. Voilà. Donc, mes recherches m'ont amené vers les jeux de la série Tiny Epic, qui sont une série de jeux. Là. Je vais dire une série, même s'il n'y a aucun lien réellement entre les jeux.
Une collection de jeux.
On pourrait le dire comme ça. Développé par Gamelin Games, qui ont comme point commun d'avoir des mécaniques solides, en fait, très testées, très engageantes, avec un visuel de qualité là, dans ce que le jeu nous donne. Pardon. Pour une expérience de jeu qui est assez comparable là, à nos fameux Big Box Games, si on veut, mais dans un format qui aurait pu facilement entrer dans une poche de pantalon cargo en 99.
Alors, on salue tous les gens qui portent encore des pantalons cargo. Faites de quoi, là? Come on.
Ou félicitations pour votre pour avoir conservé de bonne qualité.
Ben, d'ici de près 7-8 ans, ça va revenir en mode, lâchez pas.
Good job. Donc, il y a vraiment une flopée de titres. Là, puis là, je vous donne pas le Tiny Epic à chaque fois, mais on parle de Kingdom, Galaxies, Pirates, Dinosaurs, Zombies, Mech.
Dungeons.
Quest. Hein, à ne pas confondre avec...
Aïe, j'ai assez de misère à trouver des jokes de Quest, là. Vole-moi en pas, Simonac.
Moi, j'ai pas fini, de toute façon. J'ai arrêté là. Donc, chacun a ses propres mécaniques, son propre style. Il n'y a pas vraiment nécessairement de lien entre. De mon côté, moi, quand je cherchais quelque chose, j'ai regardé beaucoup de Tactics puis Defenders. Je voyais, là, comme dans les suggestions, c'était pas mal dans ceux qui ressortaient. Comme je cherchais plutôt une expérience coop à ce moment-là, c'est Defenders là, qui est sorti souvent comme suggestion. Tactics, je vais probablement y revenir parce que je l'ai un peu touché. Il amène plein de styles de jeux différents. Le jeu coop n'est pas le principal, mais Defender, c'était vraiment ça. Donc, c'est celui que j'ai acheté en premier. C'est celui-là que je vais vous jauger.
Oui.
C'est ça.
Ouais.
On enchaîne.
Rapidement.
C'est vrai que la mort a pu se calmer. Elle n'est pas obligée de me faire vivre un AVC.
Elle s'impatiente.
Il va falloir qu'on la type solidement.
Ouais, ça va être intense. Donc, ça part de là. Je me suis rendu compte finalement que les vacances avec un kit de 5 ans faisaient des journées remplies, puis la soirée nous demandait pas trop de concentration. Nous donnait pas assez de concentration pour ressortir un jeu. Là, on finissait plus devant la TV, sur le divan, à faire.
Alors, on salue tous les kids de 5 ans qui nous écoutent.
Ou leurs parents.
Et leurs parents.
Bouf.
Qui dorment en ce moment.
Mais bon, bonne nouvelle. C'est un jeu qui se joue aussi en solo. Puis c'est beaucoup de cette façon-là que j'ai joué à Tiny Epic Defenders. Puis la grosse majorité, je pense peut-être à part un, là, j'oublie lequel, des jeux de Tiny Epic se jouent en mode solo. Mm-hmm. Des fois en adaptant le jeu.
Ma prochaine question, parce que j'ai aussi Tiny Epic Tactics.
Oui. Il se joue en mode solo.
Il y a tout, right?
Lui, il y a un mode coopératif, il y a un mode compétitif, il y a un mode genre free for all en genre de battle royale, il y a un mode solo, puis il y a un mode quoi, je l'ai déjà dit, mais bref, tout est là. Mm-hmm. Je pense que tu peux même jouer direct à Donjon Dragon, deuxième édition, et du taco. Mais pour Defenders, ben, le mode solo, là, c'est c'est pas le meilleur mode solo dans le sens où c'est le mode solo qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de ce genre-là où tu vas jouer deux personnages à la fois. Sure. Un peu comme tu pourrais le faire à Gloomhaven, en fait. Là, on n'a pas parlé tantôt. Parce
mais c'est littéralement les règles. Si tu veux jouer solo à Gloomhaven, tu joues deux. Le jeu se joue de 2 à 4, donc si tu joues solo, deux bonhommes.
T'en joues deux. Puis voilà. Fait que c'est vraiment le principe de Defenders. Tu joues deux personnages en même temps. Avoir su, dans le fond, que je jouerais seul, j'aurais peut-être commencé avec Tactics plus que Defender à cause du mode solo qui est plus pas mal plus étoffé, là, qui est un mode en soi. Bref, revenons à Defenders. En passant, Defenders 2e édition, parce que la première a été beaucoup refaite pour faire la 2e édition. Ils ont beaucoup rebalancé les règles, rebalancé les personnages, même changé là, de certaines façons que ça se jouait. Donc, si vous tombez sur Defenders 1e édition, c'est semblerait-il pas la meilleure version.
OK.
Il y a un setting. On est dans la région de Off-Moor, qui est en ruine. Le mal se répand dans toutes les régions. C'est notre équipe de héros là, qui doit défendre la capitale et ses environs des forces du mal. Ça fait drôle.
Classique.
J'irai pas plus loin que ça. Il y a rien de plus à dire de toute façon. Setting bien générique, mais c'est vraiment un jeu où la force, c'est les mécaniques. Là.
Donc, depuis quand, anyway, les board games, on veut une histoire? Là. C'est comme...
Oh ouais.
C'est cute avec les Legacy Games puis les Gloomhaven de ce monde, mais avant ça, c'était juste comme... OK, on fait quoi? Ben, il y a des méchants qui viennent de la ville, faut que tu la défendes. All right, got it.
Quelqu'un qui a tué le propriétaire de la maison, faut trouver avec la corde puis dans quelle pièce. Là.
Ah, c'est vrai. Genre ben oui. Un clou, mais ouais, bon. Je m'en allais. Dans ma tête, j'étais à 13 Dead End Drive, là, genre l'héritier de. OK.
Non, moi, je suis revenu bien plus loin. Donc, chaque joueur contrôle un héros. On a une espèce de carte qui se forme là, avec la capitale au centre puis 6 autres régions autour là, qu'on va mettre au hasard. Puis chaque région a deux côtés aussi parce que chaque région a un peu une action possible qui peut être faite. Là, donc, en le faisant de cette façon-là, ben, on change un peu là, le setting à chaque partie. Il y a des ennemis qui attaquent les régions périphériques, dans le fond, pour essayer d'après ça de détruire notre capitale. Parce qu'une fois que la région est détruite, ben, les attaques des ennemis vont atteindre la capitale. Mm-hmm. Donc, le tout va être géré là, par des cartes ennemies qui vont déterminer quelles régions vont être attaquées, des ennemis terribles là, qui font la même chose, mais avec certains effets supplémentaires, les cartes joueurs qui vont déclencher notre tour... Le tout dans un deck là, dans lequel on va rajouter à chaque tour de jeu des cartes négatives jusqu'à l'arrivée là, d'un boss final qu'on doit combattre parce que pour gagner, ben, faut combattre le boss final. Faut vaincre le boss final. Donc, on pourrait un peu résumer le jeu comme s'il se déroulait en 3 phases. Là. Premier tour, ben, il est très scripté. On joue en premier les cartes négatives. On joue ensuite les cartes de nos joueurs.
C'était toujours strictement dans cet ordre-là. Genre
pour le premier tour, stuff, ouais. Okay. Genre on mélange les cartes négatives, on ne sait pas dans quel ordre elles vont jouer, puis on ne sait même pas c'est lesquelles parce qu'il y en a plus que ce qu'on utilise. On fait un autre pile à part de cartes négatives qu'on ne sait pas comment elles sont organisées, qui vont être nos cartes de chaque tour. Puis il y a les cartes des joueurs là, qui se rajoutent à ça.
Okay.
Donc le premier tour, c'est vraiment celui-là, très très scripté. Désolé, je donne une claque sur mon iPad, j'ai perdu mes notes. Donc, deuxième tour après ça, ben, on va reprendre les cartes qui ont été jouées, on rajoute une carte négative, on brasse tout ça, puis là, on a un tour qui est vraiment plus au hasard. Fait qu'on ne sait pas nécessairement dans quel ordre ils vont se faire, mais on sait déjà, certaines des cartes négatives vont revenir, il y en a une de plus, on ne sait pas c'est laquelle, est-ce que ce sera juste un ennemi normal, est-ce que ce sera un ennemi qui est plus fort. Fait qu'à chaque tour, on en apprend plus, mais il y a tout un petit élément qui se rajoute.
On construit sur ce qu'on avait déjà sorti, mais il y en a des nouvelles.
Puis c'est tout le temps de pire en pire, parce qu'à chaque tour, on rajoute du négatif, mais pas de positif. En gros, c'est ce qui se passe. Il y a nos tours de joueurs, dans le fond, vont être un tour où on pourra faire un certain nombre d'actions, là, normalement en 3, là, à moins que les cartes commencent à être détruites. Là, ça nous donne des actions supplémentaires là, pour un peu essayer de balancer le fait qu'il y a une espèce d'urgence qui s'établit. Chaque joueur va avoir son propre tour, mais il y a aussi des cartes de tours de joueurs qui sont, dans le fond, qui peuvent être partagées. Là. Soit qu'un joueur prend toutes les actions ou on partage les actions comme on veut, fait qu'on a une certaine réflexion de plus. Ça donne un pool, dans le fond, d'énergie qui peut servir à se déplacer, à combattre quand on arrive à l'ennemi final, à sécuriser les régions là, pour baisser la pression, pour pas que les villes soient détruites, utiliser certaines actions. En gros, c'est un peu l'idée. On essaie de défendre les régions qui sont attaquées en étant présent puis en mangeant les coups, dans nos points de vue, au lieu que ce soit la ville qui se fasse détruire. Puis les monstres les plus forts, là, les monstres, les ennemis terribles qu'ils appellent, ben, quand on les détruit... c'est-à-dire qu'on a du loot, puis qu'on ramasse des artefacts, finalement, qui vont ajouter certaines habiletés à nos personnages. Puis c'est probablement le bout le plus fucking cute de ce jeu.
Mais encore.
Nos personnages, dans le fond, là, c'est des petits meeples bien classiques. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, là, ça a l'air d'un genre de bonhomme à lunettes un peu obèse. Là.
Un peu comme dans Carcassonne.
En fait, c'est ça, la source. Ouais. C'est les Maple People, en fait, d'où le nom du meeple. Tu sais, qui est en érable.
Ben, dans Tiny Epic Defenders, ils s'appellent des item meeples, ils ont rajouté. Mm-hmm. Parce que les artefacts, quand on les a, on a une carte là, qui explique qu'est-ce qu'il fait, mais on a aussi un tout petit objet en plastique qui s'installe sur le meeple. Fait qu'ils ont deux petits trous dans chacune de leurs mains, deux dans leur dos, puis on peut leur mettre un item dans chaque main, puis un item dans le dos. Fait que tu peux te rendre ça avec un petit meeple qui a une potion, un marteau, puis une cape. Là, tu sais, c'est magnifique. C'est juste ça, ça
Game vaut la of peine. The year.
Voilà. Donc, c'est le fun parce que bon, ça met la mécanique de limiter les objets que tu peux porter, mais tu le vois visuellement, puis ça a un petit côté vraiment le fun de voir ton petit bonhomme se promener sur la map avec son gros maudit marteau. Puis,
Donc, tout, voilà. Tout guéri.
Oui, mais ça rajoute c'est ce qui rajoute aussi des actions qui vont permettre d'être un peu plus efficaces pour le jeu qui, tu sais, à chaque tour devient de plus en plus intense, là. Mm-hmm. Donc, voilà l'idée. Pour le reste, ben, c'est un peu ça, là. Il y a comme une gestion de ta vie, de ton énergie, l'énergie surtout, là, pour savoir les actions que tu peux faire. Il y a tout l'aspect de comme qu'est-ce qui va se passer, dans quel ordre, parce que, bon, tu peux bien dire, je vais finir mon tour dans cette région-là parce qu'elle est sur le point de se faire détruire, mais qu'avant que... il y a un ennemi qui l'attaque à cause de la manière que le paquet de cartes a été brassé, l'autre région se fait attaquer trois fois de suite, puis t'es comme « Oh, OK. » Mm-hmm. C'est un aspect très, très random à ce jeu-là, là, contrairement à un Gloomhaven qui est beaucoup plus prévisible. On n'est pas dans le même style. Mm-hmm. On ajoute à ça l'idée là, que tu essaies de défendre des zones pour pas qu'elles se fassent détruire. Faut que tu te guérisses parce que si tu n'as plus de points de vie, ton personnage ne meurt pas, mais il peut faire à peu près rien faire d'autre que se déplacer, là. Donc, okay. Il ne peut pas sécuriser une région, il ne peut pas défendre une région, il ne peut pas attaquer l'ennemi. Fait que grosso modo, il reste les actions ou le déplacement. Fait qu'il peut quand même faire certaines choses, mais ton quelque chose va être souvent de se retourner à la capitale parce que la capitale te permet de te guérir, là, entre autres. Il y a d'autres affaires qui le permettent. Avec un objectif à la fin qui est un gros boss, là, mais tu sais, c'est classique. Là. C'est des Kraken, c'est des trolls, qui apparaissent à un endroit, puis il faut te battre. Puis eux aussi vont avoir certaines habiletés là, pour t'empêcher. Ça fait une espèce de fin tout le temps un peu intense qui finit souvent à la dernière carte ou proche parce que tu essaies de gérer tout le long de la phase 2 de la game que les zones ne se fassent pas détruire, que tes personnages restent assez comme solides pour défendre. Essayer de ramasser aussi des artefacts pour réussir à toi devenir plus fort. Puis quand l'ennemi il sort, ben quand tu joues à deux, là, comme moi j'ai fait, là, je joue tout seul, mais à deux, ben t'es un peu obligé d'abandonner tout le reste pour t'attaquer au monstre puis t'arranger pour qu'il meure avant que le reste pète.
Sacrifier le reste pour la victoire.
À plusieurs, peut-être qu'il y a moyen d'un peu plus comme essayer d'équilibrer le tout pour défendre certaines régions, mais en même temps, à plusieurs, ben, t'auras plus d'ennemis aussi parce que ton deck, il est construit au début de la game en fonction du nombre de joueurs. Fait que, je ne l'ai pas vécu, mais ça amène tout le temps une espèce de course assez intense de dire ben, si je ne vais pas combattre le gros ennemi, je ne peux pas gagner. Fait que, si je continue juste de défendre pour essayer de gérer la pression, il se passera rien.
Je suis pas mal sûr que c'est inévitable, avec plus de joueurs, que la fin, c'est la fin. Right?
La fin, c'est ça.
Le reste tombe en morceaux et tu dois comme mainliner la confrontation finale.
Ouais. Sinon, c'est juste l'attrition de tes cartes et tes ressources.
Fait que je dirais que niveau difficulté, ouais, puis l'attrition est relative parce que en fait, tu peux te guérir relativement facilement. Là, fait que tes points de vie, t'en as pas une tonne. Fait
ouais, mais l'attrition des régions.
Ouais, des régions, c'est ça. Mais tu peux réussir au début à essayer de la gérer pas pire, puis d'être tout le temps avec des régions à zéro là, de pression, là, j'oublie le nom. Là, mais... Bref, à un moment donné, ça finit par être intense, puis tu fais comme, OK, prochaine carte, si c'est un ennemi, on est fait, si c'est moi, je gagne. Là, c'est... Puis bon, on pourrait, dans un jeu plus intense, plus complexe, trouver que c'est une mécanique de chenoute de tout le temps être à la dernière seconde sur un... Mais dans un jeu qui est fait pour être petit, portatif, puis... amener quand même ce petit feeling-là de « on sait pas ça va finir comment ». Honnêtement, je pense que c'est bien. Niveau difficulté, là, c'est assez variable, surtout quand on joue avec deux personnages parce que les habiletés vont changer quand même beaucoup. Là. Il y a 10 héros différents, 6 ennemis terribles là, qui ont chacun de leurs habiletés, 6 epic boss aussi, avec les régions aussi qu'on va mettre de différentes façons. C'est variable. Des fois, parce que je prends les personnages au hasard, là, on pourrait choisir techniquement, mais j'aime bien les prendre au hasard, puis ça fait une espèce de « on sait pas ce sera qui ». Des fois, il y a des habiletés qui sont pas super hot à deux, puis je suis comme « bon, OK, c'est pas super ». Puis d'autres qui sont vraiment efficaces ou qui ont une super bonne synergie. Fait que, tu sais, il y a moyen de gérer le niveau de difficulté en prenant des personnages qui vont être complémentaires ou d'y aller au hasard puis de dire « ça fera ce que ça fera ». Donc, voilà pour ça. Même chose pour les ennemis, les boss. Des fois, ils ont des habiletés qui sont comme vraiment plus dangereuses dans un setup ou comment la map finit après de la phase 2, si on veut. Comme, OK, lui, il va être vraiment dangereux parce qu'en plus, où est-ce qu'il s'en va? C'est tout pété. Puis, ben, donc, ça peut varier beaucoup. J'ai plus souvent gagné à date que perdu.
Okay.
J'ai quand même perdu une game, là, mais il y a d'autres games que j'ai comme gagné, comme je disais, sur le fait T'sais, j'ai flippé un joueur, il restait deux attaques à faire sur le boss, puis je l'ai eu, tandis que si ça avait été un monstre, ma capitale était à un dégât de pété, puis ça aurait pu faire que je tombe sur un... Fait que, c'est... Il y a un gros élément de RNG, là, de hasard qui arrive dedans, mais qui fait que tu sais pas trop si tu vas gagner ou perdre, puis en même temps, c'est des games qui font à peu près 30-40 minutes. Les premières plus longues quand tu prends une mécanique, là, mais.
C'est pas trop, c'est pas assez long pour que ça soit fâchant à la fin.
Ah non, c'est ça. Ouais. C'est comme toujours une demi-heure, la fin est comme bien intense. Tu fais comme, on dirait que je pourrais jouer juste pour la dernière bout, mais en même temps, c'est un peu ça le principe. Puis, mais des fois, je me disais que si j'avais fait certains meilleurs moves dans la deuxième phase, si on veut, là, c'est moi qui l'appelle même, il n'y a pas de nom, là, j'aurais peut-être été plus facile à la fin que moins finir à la dernière carte.
Ouais, tu sens pas que le jeu t'a railroadé à cette finale-là.
Non, j'ai fait des mauvais
moves. Décisions qui t'ont amené là.
Puis il y a un peu de mauvais RNG, mais j'aurais pu des fois un peu mieux gérer, ou bon, il y a des choses comme ça. Bref, super rejouable. C'est un peu le concept d'un jeu de ce genre-là. Donc, conclusion, pour moi, c'est une très belle découverte. Je l'ai ressorti dans les dernières semaines là, parce qu'on se demandait ce qu'on allait faire pour le pod. Puis, donc, j'ai ressorti puis j'ai particulièrement aimé ce côté-là solo. Là, j'ai rejoué pendant mes dîners à la job quand j'étais comme tout seul, j'avais rien à faire. Bon, ressortons Tiny Epic Defenders, puis ça prend pas une table gigantesque. Là, ça prend comme un espace normal sur une table. C'est pas...
Un espace normal.
Ouais, un espace tiny, j'espère.
Non.
Pas de temps.
Non, quand même pas, parce que le jeu est très compact, là, mais sinon, ça prend quand même une place quand tu l'installes. J'ai hâte de voir Tactics. Là. J'ai joué une partie au final que je sais que j'ai joué pas comme faut, pas en tout, parce que les règles sont d'un niveau de complexité pas mal plus grand, mais j'ai beaucoup aimé tout ce que ça apporte, fait que je vais y rejouer. J'ai aussi pogné Ultra Tiny Epic Galaxies. Fait que c'est Tiny Epic Galaxy, mais en version comme la boîte, c'est gros comme un paquet de cartes. Là. Fait que j'ai même pas ouvert. Parce que
le Ultra est un qualificatif de Tiny.
Ouais, vraiment. Là. Fait que, mais c'est le même jeu que Tiny Epic Galaxies, là, donc avec des vaisseaux, mais en version encore plus petite, plus portative. Là.
Wow.
Là, ça rentre vraiment dans une poche de chemise, là, pas besoin d'avoir le pantalon cargo.
Ça se modernise.
C'est ça. Donc, Defender va continuer à être un jeu qui va se traîner beaucoup dans mes bagages. Je ne l'ai pas encore essayé comme en gang, fait qu'on verra peut-être un jour, mais minimalement, quand je m'en vais quelque part, puis je suis tout seul, je m'en vais, tu sais, puis je sais que j'aurais peut-être juste pas le goût de jouer à un jeu vidéo, d'avoir un écran en face, ben ça a un peu le feel d'un jeu vidéo, on va se le dire, mais avec un côté manipulons des objets, puis on joue un board game. Peut-être qu'il sera détrôné par un autre jeu, là, entre autres Tactics qui me titille pas mal. Mais sinon, je vais quand même donner une note de 4 pattes de divan en dessous duquel on cherche les petits maudits items beaucoup trop mignons qui sont tombés de la boîte la première fois que je l'ai ouvert dans mon salon.
Lui, c'est-tu le bon?
Oui, c'est le bon.
OK, good.
On pouvait pas ramener Divan Quest puis pas ramener la séquence du Google Blender. Là, fait que, j'explique pour ceux qui l'auraient jamais entendu. L'idée, c'est que je prends des sorties, des choses qui viennent dans le prochain mois présentement. Je repasse ça dans Google Translate là, en faisant un paquet de langues différentes. Je connais que ça devient quelque chose d'un peu difficile à comprendre, puis on essaie de deviner de quoi on parle. Bon, le problème, je me suis rendu compte que dans les 3 dernières années, Google s'est comme beaucoup amélioré dans son système de translation.
Bouh!
Puis d'habitude, je faisais comme 3-4 allers-retours avec des langues moins courantes, là, puis ça donnait quelque chose de bien bizarre. Il a fallu que je trouve d'autres outils là, qui automatisent le tout puis qui le passent au hasard un 20, 30, 40 ou 80 fois. Je ne me suis pas rendu à 80.
Parce que automatise?
Oui, qui automatise la oui,
automatiser
parce que
le blender.
Semblerait-il que je ne suis pas le seul à avoir eu ce style-là dans l'hiver.
Ben, clairement, ce n'est pas toi qui l'as eu, c'est moi qui le faisais au début.
Oui, OK.
Hey. Mais j'ai jamais prétendu être si original que ça avec le blender.
Fait que maintenant, je peux automatiser le nombre de traductions avec un plugin dans Google Drive.
Magnifique.
Ça a fonctionné. Là. C'est moins. En tout cas, Google, si vous avez le goût de ressortir une version 2020 de votre translator là, quelque part en ligne, vous pourrez me l'envoyer. Donc, on commence ça le 14 avril sur la Switch.
Avec le petit Fred Buzz.
Le développement rapide de la technologie Internet accélère le développement des médias sociaux. Les gens amènent leurs animaux de compagnie, leurs appareils mobiles et leurs entreprises complexes pour profiter des nombreux avantages d'Internet. Cependant, Internet offre aux cybercriminels de nouvelles façons d'enrichir leur vie.
C'est dans les TV shows, games, c'est quoi? C'est
Switch.
Switch.
Sur Switch.
L'hôpital vétérinaire criminel.
Yeah. Y a-t-il une sortie Switch de Orwell ou quelque chose comme ça?
Je vais aller avec un drop, peut-être que ça va...
Solic, quelque chose.
Tu poses d'aider, ça?
Non, non, c'est le Mega Man Battle Network Legacy Collection.
Oh my God, wow.
Yeah. Ah, OK, les...
Oh non, c'est le synopsis filait très très moderne pour un jeu de GBA.
Oui, mais ça a l'air que...
Yeah, c'est encore d'actualité.
Ou que l'intelligence de Google qui a comme pris des référents modernes pour un jeu qui ne l'était pas. Là. Mais bon.
Fair.
On continue avec le 21 avril, toujours sur Switch. Donc, menez vos armées au combat en tant que conseiller militaire Gold Star. Vos compétences seront transférables à la terre, à l'air et au transport. Détruisez l'ennemi, conquérez des villes, assurez la victoire et maintenez la paix. Ils suivent la météo en constante évolution sur plusieurs appareils, sur plusieurs cartes.
Météo Media Advance. C'est ça. Non, c'est Advance War, le remake. Hey!
J'ai un petit drop parce que la musique est vraiment nice, là. Un truc de gameplay. Ouais, j'ai quand même hâte. On se rappellera c'est ça, que yes. Ça va être un jeu qui risque d'être intéressant. Mm-hmm. Mais visuellement, c'est cool parce que ils ont vraiment. C'est le concept d'un remake, le visuel de, qu'ils ont fait, par exemple, avec un paquet d'autres jeux de Switch. Là, mais,
mm-hmm. Ouais, ça va être intéressant. C'est une belle série que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Là.
Fait qu'on va reprendre les mêmes vieux jeux, mais avec.
Yep.
Hey! Donc, 28 avril sur PC, PS5, Xbox. Le jeu se déroule 5 ans après l'événement. Les ours sont considérés comme les derniers héros de la galaxie.
Cocaine Bear the Game.
Oui. Ainsi, le héros poursuit sa quête du royaume.
Les ours de la galaxie. 5 ans après les événements.
C'est un Care Bear the Vengeance. Kalinos 2000.
Kalinos 2000. Bon, 2028.
Oui. 20XX.
La réponse sera dans le...
The order is gone. I was betrayed by the one I trusted most.
Je pense qu'il y a des ours.
I will not be imprisoned again.
Hey, j'ai bien clippé, hein. C'est même pas, ça aide pas tant que ça.
Non, hein?
C'est Jedi Survivors.
Oh.
Fait que des Jedi sont devenus des ours, ça fait pas.
Ben oui.
C'est des Ewoks dans Jedi Survivors?
J'imagine que oui, parce que les ours sont
spoilers,
considérés
guys,
comme
spoilers.
Les
derniers.
J'ai tellement rien regardé.
Non, moi non plus.
J'ai aucun, tu sais, genre, une image. Que...
Ben, j'ai vu que le roux, il est rendu qu'une barbe, là.
Ouais, c'est ça.
En fait, t'as beaucoup d'options de customisation, fait que ça dépend de toi.
Ah, OK, cool. Bon, hey, spoilers, c'est-tu, voyons.
Vous en reparlerez probablement au prochain épisode. Donc, 5 mai sur, au cinéma. Notre partie préférée est un peu différente. Toujours en deuil de la mort d'un être cher, le leader doit prendre ses responsabilités pour sauver le monde qui l'entoure et son équipe.
Le leader.
Si ce n'est pas fait, ça pourrait être la fin de la parentalité telle que nous la connaissons.
Oh. Le 5 mai, ça.
Ouais, tu es plus sur le 5 mai que sa description, je pense. Le 5 mai.
La réponse est vraiment dans le drop. Soit là.
We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians.
Mm. Fait que je m'en ai gardien devenu parentalité.
Ah, ouais, OK. Ouais, I get it. Ouais.
Donc, right. Je termine ça avec le 9 mai sur PC, PS5, Switch. C'était marqué aussi dans la liste Stadia. J'ai un doute.
Wop, wop.
Donc, Satan est le héros en prison. Armé de nouveaux pouvoirs, vous devez arrêter les monstres qui détruisent la ville. Incarnez 6 personnages populaires. Chaque personne possède une compétence spéciale qui lui permet d'escalader les hauts murs, de trouver des endroits cachés et de protéger la ville des voleurs obscurs.
Ça sort sur quelle plateforme?
PC. Puis je pense que les autres étaient déjà sortis. Là.
D'accord.
Non, non, mais vous ne trouverez pas avec ça.
Oh yeah.
Oh oui.
sais pas c'est quoi, mais je veux jouer.
Ouais, voilà. Aucune idée, aucune idée.
C'est le c'est Ease 9, Monstrum Nox.
Ah, ouais, ça filait comme un soundtrack de Ease, j'aurais dû y penser.
Et voilà.
Et ouais. Merci pour le Ease correctement.
Oui, j'ai appris. Hein,
voilà.
Comment tu nous dirais-tu quoi? Juste là,
Album, on disait beaucoup Eyes.
Eyes,
ah, oui,
ok.
Wise. Ouais, Wise aussi, c'est vrai. Ouais.
Quand on était jeune et qu'on ne connaissait rien.
Voilà. Voilà. Ouais. Avant d'être éduqué dans l'épisode 14 de Dimanche Quest. Je cherchais pas pourquoi on connaît le numéro d'épisode exact, mais c'est ce que c'est. Good show!
Donc, je n'ai pas pensé à prendre.
On n'a pas d'autres.
On n'a pas pensé à prendre.
Je n'ai effacé des notes qu'on avait parce que on avait encore genre des je sais que Balado Québec existe encore, mais le niveau de pertinence, sans offense aux jeunes Balado Québec, là. Fait que nous, on a encore les vieilles freaking notes de conclusion.
Donc, nous serons partout. Hein?
Fait qu'on n'a plus de Patreon, fait que laissez faire ça. Je fais le tour des notes. Pour trouver nos derniers épisodes, ben oui, divanquest.com. Le formulaire de contact marche encore. On souhaite du spam de temps en temps, so there's that. On va rajouter un recap show dans pas longtemps. La cochonnerie. On est effectivement toujours disponible, ainsi qu'un paquet d'autres podcasts québécois sur rzweb.com. Vous pouvez aussi aller maintenant, likez les podcasts de RZO, really? Wow, ça fait ça, that's a thing? All right. Mm-hmm. Peu importe. Mais sur iTunes, par contre, on est allé chercher nos reviews là. Fait que si ça vous dit, hey, sur iTunes, c'est nos reviews si vous ne l'avez pas fait.
Spotify qui prend plus de place maintenant qu'il y a quelques années.
On l'avait ajouté Spotify back then. J'étais pas un utilisateur personnellement, ce que je suis maintenant. Puis je trouve que c'est une plateforme qui nous donne une belle visibilité. Donc, si c'est votre plateforme de choix, vous êtes même obligé d'être utilisateur payant pour écouter les podcasts sur Spotify. Donc, on vous invite à le faire.
Sinon, notre nouvel horaire de Divan Quest, aux deux semaines, quelque chose doit sortir. Environ aux quatre semaines, un épisode comme celui-ci. Puis, entre les deux épisodes, aux deux semaines, un épisode on fait revivre la causeuse. Donc, un épisode plus exact. De discussion et moins structuré.
Et l'épisode de la causeuse dans deux semaines sera à propos des tendances dans les... RPG, des jeux de rôle de table, ainsi que dans les jeux de société qu'on trouve intéressants.
Tendances actuelles.
Exactement. Des tendances actuelles dans le monde du jeu non vidéo, mostly. Donc, si ça vous intéresse, ben, on se revoit dans deux semaines. Et d'ici là...
Game on! Game on!